et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Aujourd'hui, je te propose un nouvel épisode intense et rempli d'émotions avec l'histoire de Cindy, infirmière de métier qui nous partage son parcours tumultueux vers la maternité, et c'est un euphémisme que d'utiliser ce qualificatif. Son parcours commence par un désir d'enfant qui met du temps à se concrétiser, avec des mois, des années d'incertitude et de traitement, jusqu'à ce qu'un premier diagnostic soit posé, celui de l'endométriose. Cindy a bravé les traitements hormonaux, les inséminations et enfin une FIV qui lui a permis de tenir son bonheur dans ses bras. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Il se teinte de défis inattendus et de révélations bouleversantes. Pendant 7h30, Cindy nous confie comment elle a fait face à l'annonce de la malformation physique de son bébé alors qu'elle était enceinte et comment elle a géré les complications de santé de Gaspard juste après sa naissance avec son diagnostic de la mucoviscidose. Et puis parce que ces épreuves ne pouvaient pas s'enchaîner sans conséquences, Cindy a également traversé une dépression du postpartum sévère et tient particulièrement à apporter sa pierre à l'édifice de la levée de tabous à ce sujet. Aujourd'hui, elle est ici pour parler de résilience, de l'importance du soutien de nos proches et des professionnels, et de la manière dont elle a transformé les épreuves en espoir pour aider les autres. Tu penses être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Cindy.
Bonjour.
Bienvenue sur Prenons un café.
Merci beaucoup de m'accueillir.
Bah écoute, avec grand plaisir. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter auprès de nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît?
Alors, je m'appelle Cindy, je vis en Bretagne, dans notre belle Bretagne, avec mon mari. On est mariés depuis 5 ans, en couple depuis 10 ans cette année. On a un petit garçon, Gaspard, qui a 17 mois. Et puis on a notre chienne qui fait partie de notre famille, Sunny, un petit cavalier King Charles. Voilà, et je suis infirmière depuis 12 ans.
Ok, on va passer à la question traditionnelle, la fameuse. Hein, si tu as déjà écouté Prenons un café, tu la connais, donc il n'y a plus de mystère maintenant. Est-ce que tu as toujours désiré être mère?
Oui, toujours. J'ai toujours les souvenirs de mes copines me dire « Bah toi, tu seras toujours la première dans le groupe à être maman, t'es la maman de tout le monde. » J'étais la tata gâteau, je suis issue d'une fratrie de 3 enfants, je suis la dernière avec des neveux et nièces. Ouais, j'étais la tata cool et la tata qui gardait toujours les enfants. J'ai toujours gardé des enfants depuis que je suis toute petite, donc j'ai toujours voulu.
Comment c'est arrivé un petit peu dans ta vie? Enfin, si tu as toujours voulu, est-ce que par exemple quand tu as rencontré ton mari, vous avez abordé le sujet rapidement?
Alors on n'a pas forcément abordé le sujet rapidement parce que lui, à l'époque, travaillait en hôtellerie et partait souvent et on était en horaire décalé. Après, une fois qu'on était bien posé, je vais dire au bout de 2 ans, on y a pensé. J'ai arrêté ma contraception. Après, il m'a demandé en mariage. Donc, je me suis dit, bon, on va peut-être pas tout faire en même temps. Et après le mariage, là, on s'est vraiment plus préoccupé. Mais oui, on l'a évoqué, effectivement, assez, au bout d'un an et demi, 2 ans.
Ouais, c'était un désir commun, quoi.
Oui.
C'est quoi ton schéma familial idéal?
Alors, j'ai toujours dit que moi, je ne voulais pas de chiffre impair. Après 4 enfants, je ne suis pas sûre que j'aurais pu assumer. 2, pour moi, c'était bien. Avec notre chienne, nous deux, c'était quoi? Ouais, c'était bien. C'était pas mal. Ouais.
Et à quel moment vous êtes dit « Ok, on en parle, c'est bien, mais là, on y va ».
À quel moment, je me souviendrai toujours, c'était en octobre. Alors j'ai une mémoire, je retiens tout, mes copines.
Ah, cool.
Oui, mes copines, ça va les faire sourire si quand elles écouteront. Je retiens des dates des fois qui ne servent à rien, mais c'est pas de ma faute, c'est comme ça. C'était en octobre, je m'en souviens, dans notre ancienne maison, où là je lui ai demandé, allez, j'arrête ma pilule, et puis il m'a dit, bah allez, vas-y, c'est parti. Et donc c'était... Ouais, 2016-2017, il me semble, par là, ouais, ouais, à peu près.
Et comment tu te sens à ce moment-là, tu sais?
Ah bah alors, moi, ça a été direct... Alors, c'était très bizarre. Ça a été direct, ça marchera. Mais dans le fond, allez, tu vas faire partie des femmes qui vont galérer à avoir un enfant. Dans le fond, ça va me travailler un petit peu. Mais voilà, c'était nos prises de tête, hein, forcément. Au départ, on n'y pense pas forcément. Et on se dit que si ça arrive, bah, ça arrive, ça serait bien et ça sera top.
Pour toi, c'était une possibilité que ça prenne un peu de temps? Tu avais des exemples autour de toi de personnes qui avaient mis plus de temps?
Alors, je m'étais un petit peu... pas renseignée, mais on entendait un petit peu plus parler de la PMA... Je trouvais que c'était beaucoup moins tabou. Après, j'étais toujours malade pendant mes règles. Je savais que là-dedans, il y avait quelque chose qui allait pas correctement, on va dire. Mais voilà, j'avais passé des examens, hein, des IRM, voilà, tout ce qu'on veut. Et ça, il n'y avait rien d'alarmant. Après, dans mon entourage, il y avait des gens proches, oui, qui ont eu du mal à avoir un enfant et... ça résonnait un petit peu, sans se dire que ça allait forcément être pour nous, mais ça résonnait et c'était vraiment dans le coin de ma tête. Ouais.
Tu nous disais au début que tu étais infirmière. Tu es infirmière dans quel domaine?
Alors, j'ai été infirmière dans un hôpital côté en médecine générale, puis après personnes âgées. Après, je suis là actuellement en transition entre infirmière libérale et infirmière coordinatrice. Okay. J'ai été libérale pendant 7 ans.
Donc, tu es assez familière finalement du milieu médical. Est-ce que ça influe sur ton état d'esprit à ce moment-là?
Alors, pas forcément, parce que c'est vrai que dans le boulot, j'ai été amenée à côtoyer des gens en PMA, enfin des femmes surtout, du coup en PMA. Mais je pense que je voulais pas forcément trop m'y pencher sur le sujet. Je faisais tout ce que je pouvais pour ces femmes-là, mais je... ça résonnait pas trop. Je pense que je me mentais un petit peu à moi-même et je voulais pas. Je voulais attendre que. Arrêter de toujours tout anticiper. Ça, c'est mon gros problème. J'anticipe toujours tout. Et là, je me souviens de me dire, bah, allez, tu verras, on verra. Et puis, il y avait le mariage qui s'approchait. Donc, j'essayais d'aller étape par étape.
Ouais, carrément. Est-ce que ça a marché rapidement ou pas?
Ah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. À mon grand désespoir, enfin notre grand désespoir, parce que je ne suis pas toute seule. On va dire qu'on a mis 4 ans avant le mariage. Après, il y a eu une pause et puis une mini pause parce que bon, j'ai repris la pilule juste une semaine avant le mariage. Et après, je m'étais dit, de toute façon, si je suis enceinte, ben, je serai enceinte. Et puis c'est pas grave. Et après, bah quasiment un an et demi. Pour retomber enceinte, en sachant que après le mariage, on a été assez vite vers la PMA, du coup, vers un gynéco et pour passer des examens complémentaires.
Ouais, parce que là, ça prenait trop de temps et on vous l'a recommandé ou alors c'est vraiment de votre propre initiative?
Non, on nous l'a pas forcément recommandé. Bon, j'avais juste été voir mon médecin traitant qui m'avait prescrit une IRM pour une suspicion d'endométriose parce que j'avais quand même pas mal de symptômes. Et puis c'est moi et mon anticipation qui avait dit allez, on va prendre un rendez-vous chez une autre gynéco qui elle avait été conseillée aussi par mon médecin traitant. Et puis bah là, tout s'est plus ou moins enchaîné après dans la foulée.
Ok. Ouais. Donc ton diagnostic d'endométriose a été fait?
Alors, ça a été une errance médicale. Je n'avais pas d'endométriose à mes IRM. J'avais rien. À part une infertilité inexpliquée, un surpoids qui a été la cause, soi-disant, des échecs, on va dire, de tentatives. Et du côté de mon mari, on disait que c'était un petit peu feignant.
Ah, okay.
C'était pas l'amant catastrophique, c'était un petit peu feignant. Mais moi, de mon côté, c'était pas trop mal, en fait.
Ouais.
Donc, en première étape, ça a été ça. Et puis ensuite, j'ai voulu avoir un deuxième avis. Et là, ça a été direct un diagnostic d'endométriose. Donc, on a perdu un an et demi.
Ça a été quoi la différence entre ce premier médecin que tu as vu qui t'a dit non, pas d'endométriose, et le deuxième? Est-ce qu'il y avait une spécialité sur le sujet? Est-ce qu'il y avait plus d'informations? Est-ce que tu sais?
Alors, la première gynéco a été spécialisée en PMA pourtant, mais le deuxième était vraiment spécialisé endométriose, réputé. Et réputé en PMA, on l'a... On l'appelle le dieu de la
Oh.
PMA par chez nous. Et alors certaines n'aiment pas qu'on l'appelle comme ça parce que tout le monde ne voit que par lui, mais c'est pourtant la réalité et le diagnostic, bon, pas bon, j'en sais rien, mais n'empêche qu'il a adapté le traitement
Ouais, ça a été.
et que ça a
Et
été.
que ça, oui, la différence. Je te posais la question parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'errance médicale autour de l'endométriose. La moyenne du diagnostic, c'est 8 ans. C'est énorme. C'est énorme. C'est
C'est énorme.
des femmes qui clament et hurlent très fort leur souffrance, mais qui sont. C'est pas qu'elles ne sont pas entendues, si parfois elles le sont. Enfin, ça, y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est on fait l'IRM et s'il n'y a rien dans l'utérus, ben il n'y a pas d'endométriose. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on sait que l'endométriose ne se loge pas uniquement dans l'utérus, que ça peut être un peu partout. Et finalement, j'ai l'impression que dès qu'on va voir un professionnel de santé qui est justement spécialisé en endométriose, ben là, ça va beaucoup plus vite. Alors, je me demande, ils sont certainement pas nombreux non plus, ces praticiens qui sont spécialistes d'endométriose, mais tant d'errance, en fait, tant de temps, entre guillemets, perdu, que ce soit dans un projet d'enfant ou dans de la souffrance, juste de la souffrance, je trouve ça toujours aberrant. Et c'est vrai que c'est un message qui est important à faire passer, c'est que si un jour, un moment, vous avez un doute sur l'endométriose, que ce qu'on vous dit, on vous a peut-être dit que non. Mais en fait, essayez d'aller plus loin et de trouver vraiment des spécialistes. Je vous dis ça parce que moi, j'ai une amie récemment qui a été diagnostiquée d'endométriose et à qui on avait dit non, en fait, aussi, qui n'a pas forcément été entendue, ni dans sa douleur, ni dans ce qu'elle décrivait. Et alors qu'en fait, c'était vraiment ça. Et que quand elle s'est mise à consulter justement un professionnel qui était spécialisé du sujet, ben, ça a été assez rapide finalement. Donc c'est important aussi de se diriger vers les professionnels spécialistes. Et que c'est pas parce qu'on est gynécologue qu'on est forcément spécialiste du sujet. Par exemple, il y a des gynécologues qui sont pas du tout spécialistes de la fertilité et d'autres qui le sont. Donc quand on a un problème précis, essayer de trouver le spécialiste qui sera spécialisé. Encore une fois, je parle en disant, en connaissant parfaitement la problématique des déserts médicaux, du fait que les spécialistes ne sont pas partout, qu'ils sont majoritairement dans des grandes villes et que c'est pas égalitaire, que sur le territoire français, en tout cas, il n'y a vraiment pas d'égalité sur ce sujet-là. Donc j'ai bien conscience de ça. Mais si vous avez l'occasion, si vous avez les moyens, la possibilité de vous déplacer, ben faites-le parce que franchement, je pense que ça change la vie. Et ton témoignage corrobore aussi avec ça. C'est vrai que une fois que ben, les mots ont été posés, ben, vous avez pu mettre des choses en action pour ben, arriver à votre projet finalement.
Voilà, j'ai été avec l'autre gynéco où j'ai quand même mangé beaucoup, 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 beaucoup de traitements et des cycles et des cycles et des cycles pour rien. Parce que quand j'ai été revoir le deuxième gynéco et qu'il m'a clairement dit à l'écho pelvienne, c'est évident que ça ne marche pas, ça ne marchera jamais, même Pambou. Je suis désolée de vous l'annoncer, il est un peu brut, mais en fait j'ai été soulagée de me dire que bah en fait je comprends pourquoi ça marchait pas et je comprends pourquoi j'avais autant de douleurs et je fais pas partie des femmes qui ont des douleurs, on va dire sur la longueur. Moi c'est souvent avant mes règles et le premier jour, mais ouais, ça a été une grosse errance et surtout de ne pas se pencher un peu plus sur le sujet et de mettre ça sur le poids. C'est psychologique, c'est
Ça
dans ma
fait vachement
tête.
culpabiliser, ça.
C'est très culpabilisant parce qu'il n'y a que toi, toi, femme, qui porte ça. Et cette gynéco-là, elle se rendait pas compte, mais elle me voyait 3 minutes enlever votre pantalon, enlever votre culotte et je surréagissais trop au traitement parce que bah forcément j'étais hyper stimulée et mais non, c'était le poids, tout le temps le poids. Et j'ai de toute façon j'avais challenge du coup de perdre du poids. J'ai perdu plus de 30 kilos toute seule et je me suis dit que j'allais le faire toute seule comme une grande. Ça m'a aidée, ça c'est sûr et certain dans ma réserve ovarienne, mais ça n'empêche que il y avait quand même un diagnostic qui était là.
Ouais, il y avait pas, enfin c'est pas, c'est ce mot-là, infertilité inexpliquée, qui est hyper dur à entendre, non?
Ouais, parce qu'en fait, c'est là où, alors moi qui suis quelqu'un qui veut toujours tout maîtriser, tout contrôler, là, infertilité inexpliquée, je me disais, mais c'est pas possible, pas. Là, je ne peux rien faire, en fait. Ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver. C'est un coup de chance, une chance sur deux.
Et toi, tu enchaînes les protocoles en te disant, en fait, et sans avoir de certitude, tu n'as jamais de certitude vraiment dans ces parcours-là, mais même hors parcours PMA, d'ailleurs, concevoir un bébé, il n'y a pas de... On sait comment ça se passe, mais des fois ça se passe, des fois ça se passe pas. Mais
mais là,
d'enchaîner les traitements hormonaux, et puis c'est quand même éprouvant pour le corps, pour le psychologique aussi. Enfin, et te dire il y a pas de solution, il y a rien à faire à part attendre, ça doit être vraiment dur, quoi.
Ouais. Attendre des rendez-vous t'as aucune considération, en fait, t'as juste un numéro dans un dossier, attendre, au début ça commençait par des cachets, après c'était des piqûres, donc ça allait, j'étais du métier, je savais comment me piquer, mais entre être soignant et se soigner, il y a une sacrée marge, et ensuite passer aux inséminations, où là clairement t'es un animal dans une salle d'attente, et tu attends, et tu es un numéro, et on te protège pas, tu es à nu devant des gens que tu ne connais pas. En fait, tu te dis, mais c'est quoi ça? On est en France, on est en 2022, et waouh!
Puis c'est pas comme ça que tu imagines fabriquer un bébé?
Moi, je n'imaginais pas, même si c'était, comme je disais, dans le coin de ma tête un petit peu, je n'imaginais pas que on allait provoquer mon ovulation, que j'allais devoir mettre des réveils à 23 heures pour faire mon déclenchement, que mon mari allait donner son sperme dans une salle où tout le monde a ses clichés de salle, où c'est sale. Mais alors que pas du tout, on n'avait pas du tout prévu ça au programme. Ouais. Alors, clairement pas du tout.
Ça enlève un peu de magie.
Oui. Parce que malgré qu'on te dise que ça ne marchera jamais naturellement, on a quand même de l'espoir. Donc on calcule les jours d'ovulation et on se dit, bon allez, vas-y, on tente, on prend des risques. Parce que je réagissais trop au traitement, donc j'avais un gros risque de grossesse multiple. Mais on se disait, tant pis, si ça prend, c'est que ça devait prendre. Alors qu'on était en rapport interdit.
Ah ouais.
C'était écrit sur les comptes rendus, rapport interdit pendant 3 jours. C'était très...
Mais ça, pour l'intimité du couple, ça doit être vachement éprouvant.
Ouais. Ça va que... avec du recul, maintenant, je me dis... c'est vrai qu'on en a vu. Et au début... En fait, je pense que j'étais tellement très ouverte à tout ça que j'ai habitué mon mari à en parler facilement. Mais oui, c'est perturbant pour l'intimité. Enfin, déjà, de se piquer, c'est compliqué. Après, se mettre des ovules, 6 fois par jour, mais c'était horrible. Et puis oui, on sait exactement à quelle heure tu vas ovuler. Quoi. On te pique à 23h, 36h plus tard, tu ovules. Tu peux pas te louper. Donc, ça enlève un peu de magie.
Et puis la spontanéité, je sais pas, vous faites un petit dîner, et puis il y a la petite étincelle, et puis en fait, tu es obligé de regarder ton calendrier pour savoir si en fait tu peux aller plus loin dans ton truc.
C'est ça.
Et c'est compliqué, quoi.
On a perdu cette magie-là pendant quelques mois, faut pas se mentir, parce que ce projet-là, du coup, commence à prendre beaucoup plus d'espace dans nos vies et dans nos têtes, et que du coup, on s'oublie, malheureusement, malgré que le couple est tenu, et on a eu des hauts et des bas, mais on s'oublie, c'est le protocole avant tout.
C'est ça. Pour en plus enchaîner les échecs.
Oui. Alors au début, les échecs, on se dit, allez, c'est pas grave, c'est un échec, 2 échecs, 3. Et puis on cumule, jusqu'à arriver à se dire, on passe en FIV. Et qu'on te dit, de toute façon, en général, le premier transfert d'une FIV, ça ne fonctionne pas. Donc on le fait, mais ça ne marchera pas. Et là, je me dis, waouh, ça va être combien d'échecs, quoi. Enfin, il faut réussir à se relever à temps. En même temps, on veut avancer. Je me rappellerai toujours de dire, je ne veux pas de pause entre chaque cycle. Je veux y aller. Oui, je voulais. J'enchaînais tout.
Ça devait être drôlement éprouvant pour ton corps aussi.
Ouais. Mon corps a pris très, 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 très cher. Ouais. En fait, il n'a pas été en pause hormonale pendant... Si, on a eu une pause parce que le délai pour passer en insémination était un petit peu plus long parce que c'était les vacances. Donc, j'ai eu 2 mois de pause. Mais sinon, je ne voulais pas. Je ne voulais pas perdre de temps. Je voulais y aller.
Mais ça, plus la perte de poids, c'est beaucoup pour ton corps.
Oui. Mon corps a pris très cher, ouais. Mais la perte de poids, je dis toujours, elle m'a sauvée. Et le sport m'a sauvée parce que je pense que je serais tombée encore plus bas que ce que je ne suis tombée, mais ça m'a vraiment sauvée, ouais.
Ok.
Mais oui, de se dire que tous les mois peuvent être un échec,
Ouais,
c'est
c'est compliqué. À quel moment vous
très dur.
décidez de changer de praticien, de dire en fait là ça suffit, ça marche pas avec cette personne-là, on va aller voir quelqu'un d'autre?
Alors, j'avais mon rendez-vous le 17 novembre précisément,
Oh, c'est ma
et
fête
j'avais
le
dû le...
17 novembre.
Ah bah tu vois, c'est la fête de la marraine de
Ah, tu vois,
Gaspard,
je
donc
pense qu'il y a un
tu vois.
truc.
J'avais dû prendre rendez-vous en septembre, ouais, 2020, à un moment où j'ai senti que ma gynéco ne m'écoutait plus, j'étais plus du tout considérée et qu'elle ne daignait même plus à répondre au téléphone, c'était des messages Doctolib. Et là, je me suis dit, allez, prends un deuxième avis, c'est pas grave, tu verras, tu payes une consulte, c'est pas grave, t'es plus à ça près. Parce qu'il y a aussi toute la médecine alternative où on essaye l'hypnose, magnétiseuse, tout, tout.
C'est un
Je peux
sacré
même pas.
budget à la fin.
Oh ben. Oui. Je m'étais toujours dit que je ferais un tableau Excel pour répertorier tout ce que j'avais essayé. Je ne l'ai jamais fait, mais ça m'a coûté très cher. Et ce gynéco-là, je me suis dit, tante, tu verras, je me rappellerai toujours, il m'avait pris avec 2h30 de retard. Mais j'en suis sortie de là avec mon mari, on s'est dit, bah, au moins c'est réglé, on n'en parle plus, et on y va, et on enchaîne, et c'est parti. Et j'avais envoyé un mail à ma première gynéco, pas très sympathique, mais il m'avait fait du bien. Elle avait essayé de me rappeler pour avoir des informations, j'avais pas répondu. Moi, je voulais clôturer, c'était fini.
Ouais, elle te fallait quand même que tu
Et j'ai
récupères ton
enchi.
dossier ou ce genre de choses? Non, même pas, pas besoin. Ok.
Non. Mon autre gynéco, du coup, on avait refait tous les bilans.
Ouais.
On était reparti de
Ok.
zéro. Et on avait refait tous les bilans. Il nous avait dit que c'était pas la peine de retenter des stimulations, des inséminations. Ça ne marcherait jamais et qu'on passait en FIV directement.
Ok.
Donc, je suis rentrée en novembre et j'ai fait ma FIV en janvier. Enfin, février. Est-ce que janvier, elle a loupé, mais en février.
Et là, ça a pris quoi donc du coup avant que ça marche?
Eh bien, janvier, j'ai fait un protocole et qui a loupé parce que du coup, on connaît notre corps au fur et à mesure. Et je savais que j'étais en train d'ovuler spontanément et bah bingo, en fait, j'ai bouffé un mois de traitement pour rien. J'étais très déçue. Par contre, dans la foulée, j'ai réenchaîné un cycle et j'ai réenchaîné le traitement. Et du coup, février, j'ai fait ma ponction le 21 février. Et un transfert d'embryon le 23 février. Là, moi, dans ma tête, je suis assez défaitiste comme femme. J'ai toujours peur et tellement pas confiance que pour moi, c'était sûr que ça marcherait pas. Et puis, ben, en fait, on attend 14 jours et au bout de 14 jours, on s'interdit de faire des tests de grossesse. C'est la torture, mais on
Oui,
ne
parce
fait
que
pas.
même là-dessus, il n'y a pas de spontanéité.
Non.
Tu vois, tu découvres pas ta grossesse par surprise.
Pas du tout.
De retard de règles et tout ça,
Pas du
bon,
tout, parce
tu les
qu'en
crois
fait,
dessus.
complet. Hein, tu sais que tu ne fais pas de test de grossesse parce que les injections que tu t'es faites peuvent fausser les tests, donc ça ne sert à rien. Le seul bon truc, c'est la prise de sang à J14. Et je m'en souviendrai toujours de me la faire toute seule. Je faisais toutes mes prises de sang toute seule et je l'ai envoyée. Elle est négative, donc je ne me prends pas la tête. Et de rentrer après ma tournée de travail, de me poser, et je vois là, résultat laboratoire. Ah oh oui, mince, ma prise de sang. Et je l'ouvre. Ah, merde, positif.
Merde.
Ouais, vraiment, ça a été
Ouais.
mon premier mot. Je me suis oh, bah, pour moi, c'était négatif, en fait.
Ouais.
Aucune magie, clairement. J'appelle mon mari et je lui dis, bah, Thibaut, c'est positif. Mais vraiment, j'étais nulle. Mais j'étais nulle.
Ouais, mais t'es
Et
sous le choc, en fait.
ouais. Complet. Et là, c'est une deuxième étape de stress qui commence. C'est il faut que les taux augmentent toutes les 48 heures. Toutes les 48 heures, après toutes les semaines, je ne sais plus, et après 21 jours, je ne me rappelle plus exactement. Sauf que je commençais déjà à saigner et que pour moi, c'était mort en fait, c'était foutu. Et je me rappellerai toujours d'un Noël entre copains, on fait no les Noëls tard chez nous. Et de dire non, je sais, c'est mort, c'est fini, je saigne, j'ai déjà mes règles, donc je sais très bien que ça va pas marcher. Et puis si en fait les taux augmentaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à l'écho de datation,
Ouais,
même si
c'est
on
quoi, c'est
savait,
8 semaines? Un truc comme ça?
ouais, 7 ou 8
C'est au
semaines,
moment où justement
et
tu peux avoir un battement de cœur, parce qu'avant t'en as pas,
voilà,
donc
t'en as
ouais.
pas. C'est beaucoup plus stressant. Alors, j'avais déjà été plusieurs fois aux urgences, que je saignais quand même beaucoup. Et alors, on passe de la vésicule vitelline. C'est un microscopique petit rond, mais il n'y a pas de battement de cardiaque. Donc, on te dit que la vésicule est là, mais
Mais
voilà,
tu peux
faut
pas être
attendre.
sûr, c'est trop petit, tu peux pas voir quoi.
Voilà. Et les taux continuaient d'augmenter quand même, hein. C'était des petits taux, mais ils augmentaient jusqu'à l'écho de datation. Qui là, je me souviens toute ma vie, notre docteur met le son et là, les battements du cœur et
Magie.
c'est bon. Ouais, on respire un peu, on lâche prise et ça a été un très beau souvenir.
Ouais, je me doute. Il y a un truc quand
Ouais.
même qui est important à rappeler, c'est
Et
que
c'est que
les saignements en début de grossesse, s'ils ne sont pas abondants, sont complètement normaux aussi.
oui.
Parce que c'est la nidification en fait qui se fait. Enfin, c'est tout ça ça travaille dans l'utérus et parfois il y a des petites pertes. Alors c'est stressant parce qu'on associe toujours les saignements avec la fausse couche, avec l'arrêt spontané de grossesse. Mais non, c'est pas toujours le cas. Alors bien sûr que dans le doute, hein, faut toujours consulter quand même. C'est hyper important parce que même ne serait-ce que pour la santé mentale, pour l'anxiété, pour le stress, c'est important. Donc même si vous avez un doute, allez aux urgences gynéco. De toute façon, ils ont l'habitude. Et puis enfin, vous dérangez personne, vous prenez la place de personne, c'est important d'aller vérifier parce que vaut mieux aller vérifier pour rien que y aller trop tard. Dans tous les cas.
Voilà.
Mais quand même rappeler que les saignements début de grossesse sont tout à fait courants et normaux.
Exactement. Moi, j'ai saigné jusqu'à mes 6 mois de grossesse à peu près. Et il y a eu des moments où j'allais pas forcément aux urgences, d'autres moments où j'y allais et j'ai jamais été jugée, je n'ai jamais eu une remarque, je n'ai jamais rien eu. Et ça me rassurait et ça rassurait le papa, faut pas l'oublier. Et voilà, tout allait bien quand même. Mais ça n'empêche que le premier trimestre a été vraiment très stressant.
Qu'est-ce qui te stressait?
En fait, j'ai cumulé le Covid. Du coup,
Ah oui, c'est
il
vrai
y
que
a
c'était
quand
en
même
pleine
un.
période de Covid.
Ouais, on sortait des confinements, mais on était encore quand même en plein dedans.
Ouais, les couvre-feux et tout ça, là.
Voilà. Donc là, du stress quand même avec le Covid. Après, moi, il y avait le boulot où je faisais quand même beaucoup de voitures. C'était quand même assez physique, mais je ne voulais pas m'arrêter parce qu'en libéral, s'arrêter quand on est à son compte, c'est compliqué. Ouais, non, le premier trimestre a été quand même assez compliqué,
T'avais
mais il s'est fait.
prévu une prévoyance parce que je sais que
Oui.
ouais, c'est important ça et c'est pour ça que je te pose la question. Je sais qu'il y a beaucoup d'infirmières en libéral qui ont quand voilà quand il y a un projet bébé tout ça, c'est important d'avoir une prévoyance parce que c'est des métiers physiques et on s'arrête relativement tôt.
Alors, s'il y a des infirmières libérales qui m'écoutent, ou infirmiers libéraux, non, c'est forcément des femmes, qui m'écoutent, prenez des prévoyances et faites bien attention à vos conditions et que vous êtes bien couvertes parce qu'effectivement, c'est super important et si on peut s'arrêter tôt, faites-le parce que on est, je vais pas dire qu'on se met en danger en voiture, attention, mais nos métiers demandent quand même une condition physique assez importante et
Ah oui,
oui.
quand tu dois aider des personnes à se relever,
À
à bouger, enfin, genre de choses,
ouais.
ça appuie sur le corps quand même, c'est
C'est
important.
ça, exactement. Et moi, je m'étais toujours dit que avec la PMA, déjà, mon corps avait pris très cher. Je voulais pas lui en rajouter. Je demandais pas à m'arrêter dès le début de ma grossesse, mais je m'étais fixée à mes 4-5 mois de grossesse, j'arrêtais. J'ai 4 mois et demi.
Bon,
Voilà,
ça va,
j'ai tenu.
t'as rempli ton objectif.
Ouais.
Et alors, quand tu arrives à l'écho T1, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es rassurée? Est-ce que tu...
Alors, du coup, c'est une nouvelle gynéco qui prend le relais parce que mon gynéco PMA ne faisait que PMA. Donc, nouvelle gynéco, adorable, la T1 très stressante quand même. Mais tout se passe bien et bébé va bien, bébé grandit, il est dans les normes, il a tout ce qu'il faut là où il faut. On ne demande pas le sexe, on ne veut pas savoir. L'estimation était pourtant faite, mais on n'a pas voulu. J'avoue, on respire vraiment encore plus fort là, où on se dit, c'est bon, et là, tout va bien, tout se passe bien, on va pouvoir un petit peu se projeter, parce que moi, je m'interdisais de me projeter.
Ah ouais, vraiment, c'est toi qui te l'interdisais, genre, vraiment.
Ouais, chose que j'ai été très dure avec moi-même, mais j'avais tellement peur de me reprendre une claque que je voulais pas me projeter, alors que j'allais la prendre quand même, la claque, mais s'il se passait quelque chose.
Oui, mais bon, mais t'as c'est... toujours ce besoin d'être protégée, tu sais, quand t'as eu mal, quand t'as souffert, t'as peur après. Chat échaudé, craint l'eau froide, on dit.
C'est cela, exactement. Belle expression. Mais c'était exactement ça.
Ouais. Carrément.
Exactement.
Et puis bon, on est sur Prendre un café, on sait bien qu'il va se passer un truc. On n'est pas juste là pour se parler du parcours PMA qui est déjà intense et qui est déjà lourd. Des podcasts sur la PMA, j'en ai déjà fait. Là, il y a autre chose et il y a une claque qui arrive. Elle arrive à quel moment cette claque?
La claque arrive en juillet, donc pour la T2, où j'étais en arrêt. J'étais dans l'optique qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pour qui, pourquoi alors, je suis quelqu'un de négative et pessimiste, d'accord, mais je ne peux pas l'expliquer, c'était comme ça. Et arrivé à la T2, j'étais vraiment très tendue et elle fait l'écho, elle a du mal, elle fait des mesures, elle va à droite, à gauche, en haut, en bas, c'est très long. Elle dit qu'elle voit mal. Et puis, il y a beaucoup de silence. Et à la fin, elle dit qu'elle est embêtée parce qu'elle ne voit pas la main du bébé. Et mon mari a l'oreille un peu sourde, donc il n'entend pas. Mmh. Et je lui demande de répéter, de parler plus fort. Et elle dit qu'effectivement, elle ne voit pas la main du bébé. Elle ne voit pas la main droite. Elle trouve ça bizarre et elle nous laisse dans la salle, dans le noir. Elle dit, je vous laisse un temps de tous les deux et vous revenez dans mon bureau.
Elle n'explique pas le pourquoi du comment, c'est même pas pour appeler un confrère pour avoir un deuxième avis, c'est vraiment je vous laisse. Et...
Oui.
Il y a quand même un truc qui est... Ça fait 5 ans que Prendre un café existe, ça fait 5 ans que j'entends des témoignages et à chaque fois, la réaction du personnel soignant, enfin le manque de... Pas d'empathie, mais enfin, ce truc psychologique, enfin, cette frayeur à chaque fois, elle est récurrente. Je trouve ça toujours, je suis toujours surprise. Alors, je pense que ça n'arrive pas à tout le monde, mais c'est quand même assez récurrent. Et il y a vraiment ce, enfin, quand on traite de l'humain quand même. Et et c'est pas juste un corps, c'est pas juste un utérus, c'est pas juste un fœtus.
Non.
C'est une famille qui se construit. C'est tout ce qu'il y a autour. C'est l'amour qui est déjà là, c'est la famille qui est déjà là. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnel soignant, en tout cas, oublient un peu ça. Ou alors, est-ce que c'est de la protection, peut-être, hein, parce qu'ils doivent voir des choses aussi assez compliquées. Mais moi, ça me sidère à chaque fois, en fait, d'entendre ce genre de choses.
Ouais, vraiment. Alors après, elle avait pris le temps hein, de parler, mais c'était un 13 juillet, plein été. Et pour avoir le diagnostic final, elle n'était pas sûre d'avoir un créneau avant 3 semaines. Donc c'était en anténatal, diagnostic anténatal. Et là, moi, je me suis dit, j'attends pas 3 semaines de pas savoir si mon enfant a une main ou pas de main. En fait, ça va pas être possible, avec probable malformation cardiaque aussi.
Ouais.
Et bon, moi, je me rappelle de m'écrouler. Et on était à peine arrivés à la sortie de la rocade et elle nous rappelait, je vous ai trouvé un créneau pour le surlendemain. Donc, elle a été plutôt assez humaine, pour le coup. Et puis, arrivé le surlendemain, en fait, on est allé aux urgences. Et là, c'était une gynéco spécialisée en anténatale qui était là de garde.
Parce que, elle vous a renvoyé vers les urgences, c'est ça?
Oui.
Ok, d'accord.
Oui. En fait, ça devait être une gynéco qui était très réputée. Et en fait, elle avait le Covid. Donc, c'est sa collègue qui l'a remplacée. Elle a été... Moi, j'étais déjà dans l'optique, il n'a pas de main. Je ne t'explique pas les 2 jours d'enfer qu'on a vécu. On a vécu dans le noir, ce qui faisait 40 degrés. On a mis beaucoup de temps à digérer et à pouvoir anticiper et plus ou moins accepter que probablement le bébé n'avait pas de main. Je vous raconte pas, c'est un enfer. Et arrivé le 15 juillet, du coup, le diagnostic tombe. Elle nous laisse aussi dans le noir et puis elle m'essuie vite fait. Ah ben non, mais il n'a pas de main, mais de toute façon, c'est pas un problème, hein. Il vivra très bien. Waouh. Oui, il vivra très bien, mais attendez.
Mais la projection que toi t'avais, tu dois quand même faire une croix dessus, et il y a quand même un deuil à faire, parce que c'est...
Ouais.
Même si ça ne paraît que, et je mets des guillemets, hein, juste une malformation physique, ça reste pas ce que tu avais imaginé et de pas ce qui se passe dans la plupart des cas, en fait.
Non.
Et ça, c'est vraiment un deuil quand même important. Et c'est... voilà, enfin, c'est important.
C'est ça. Donc, pas d'explication du pourquoi, du comment, ça arrive. Ça pouvait être un bride amniotique, mais non, elle n'avait rien trouvé. Ça pouvait être génétique, mais pour elle, ça ne l'était pas. Donc, on me propose une amniosynthèse. Mais je devais passer en staff. Mais de toute façon, moi, c'était direct, c'était catégorique. On fait une amniosynthèse pour tout éliminer, parce qu'on ne va pas s'en rajouter.
Quand tu dis passer en staff, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas
oui.
du milieu.
On passait en commission, en gros, avec plein de professionnels de santé, plein de gynécos, les chefs de service et tout ça, et on parle de dossiers à traiter. Et donc, nous, on passait dans cette commission-là pour voir s'il était bien judicieux de faire une amniosynthèse, si pour eux c'était génétique ou pas, si et la conduite à tenir pour la suite.
Okay.
Ils ne m'ont pas interdit de faire la myosynthèse, mais pour eux, elle n'était pas nécessaire.
D'accord.
Moi, j'ai voulu la faire. Enfin, on a pris la décision de la faire. Mmh. Donc, on l'a faite 3 semaines après. Et les résultats mettaient très longtemps à arriver, normalement. Et puis finalement, 5 jours après, coup de fil. Là, on se décompose aussi. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et non, tout est négatif, tout est bon. Vous inquiétez pas, c'est pas génétique. On n'aura jamais d'explication.
Ok.
C'est une malformation, on ne saura pas ce qui s'est passé.
C'est juste un bug dans la matrice
voilà.
Des cellules qui se créent.
Voilà. Mmh. Et ce qui est fou, c'est que la veille de l'écho, j'ai eu très mal au ventre, sur le côté droit. J'ai eu très très mal au ventre dans la nuit et j'ai rêvé que l'organe se coupait. C'était très... Je sais pas. Après, je faisais des rêves très bizarres... des rêves très bizarres, mais ça, oui. C'est, ouais. Et notre gynéco de référence est parti en vacances et n'a jamais repris.
Ah bon ?
Après tout ça.
Mais alors, moi, je reviens sur la myosynthèse, parce que bon, moi, je connais un peu la suite. Donc... mais la myosynthèse, elle sert à analyser finalement toute la génétique du bébé. Ou pas ? Tu me dis si je me trompe.
Eh bien, en fait, c'est selon ce qui est demandé. On n'analyse pas forcément tout.
Ok, ok. C'était un peu ma question. Est-ce qu'ils allaient chercher justement uniquement sur cette cause de main ou est-ce qu'ils allaient finalement avoir un tableau assez global de presque l'identité génétique, la carte d'identité de ton enfant, mais à l'intérieur, quoi ?
Eh bien, moi, je pensais qu'ils allaient faire tout le karyotype, toute la génétique du bébé. Et en fait, non. Ils ont cherché essentiellement tout ce qui était anomalie chromosomique au niveau... du tableau génétique.
Tout ce qui pouvait causer la malformation avec la main. Okay.
Voilà. Et cardiaque, parce que s'il y avait une malformation au niveau de la main, ou que ce soit pied ou main, ça pouvait être aussi lié avec une malformation cardiaque.
Okay.
Mais là, visiblement, il n'y en avait pas.
Ok. Comment tu accueilles ces résultats-là ?
La myosynthèse, plutôt bien. Soulagée, où là, je me dis, bon, allez, Cindy... t'es tombée bas, là, pendant 3 semaines. J'étais tombée bien bas. Et il faut se relever, il n'y a pas le choix. Le bébé va arriver. Il va falloir l'accueillir. Il va falloir préparer, se projeter. Parce que j'ai eu un moment de rejet où je ne voulais plus sentir le bébé. Je ne voulais plus. Après, on s'est vite mis dans une association, ACDA, où on a rencontré des familles où il y a des enfants atteints d'une agénésie, on appelle ça, du coup. Là, ça nous a fait beaucoup de bien, tous les deux, et fallait y aller, fallait avancer.
Mais,
malgré que, voilà, il y avait des hauts et des bas.
Vous êtes allé chercher des ressources, finalement, qui pouvaient vous aider, et vous aider, justement, à vous projeter dans l'avenir, et à re-imaginer cette vie avec cet enfant en ayant un peu plus d'informations sur lui et différent de ce que vous aviez imaginé, mais voilà, il y avait une projection, il y a un avenir, il y a tout ça, quoi.
C'est ça.
Vous en parlez à votre entourage ?
Oui, le jour même à nos parents, moi, mes copines très proches. Je m'en souviendrai toute ma vie de mes parents arriver le soir où on était décomposés. C'est dur aussi d'annoncer à tes parents qu'ils vont avoir un petit enfant avec une malformation. Et puis, Et puis on essaye de faire face, mais c'est pas facile. Donc on essaye de soutenir et on essaye de se dire, allez, ça va aller, on est tous ensemble, main dans la main, on va y arriver. Et j'ai des copines qui étaient formidables et qui ont été là, qui avaient préparé un goûter, qui sont venues me voir, qui sont venues me soutenir, nous soutenir, parce que Thibaut aussi avait ses copains et on a été... En fait, moi j'ai la parole facile et je parle assez facilement et j'ai besoin de parler. Donc du coup, on en parlait et je pense que ça a aidé.
Ouais, carrément. Comment se passe la fin de grossesse?
Alors, on oublie le diabète gestal, les nuits blanches, les impatiences.
T'as pas été épargnée.
Oh là là, c'était horrible. c'était horrible les impatiences, vraiment. Mais la fin de grossesse, bien.
Ouais.
Je vais pas me plaindre. J'avais un suivi tous les mois, du coup, une écho tous les mois. Très bien.
Ouais. Bon, puis arrive l'heure, du coup, de cette rencontre avec ce bébé qui n'a pas encore de prénom. Vous n'avez pas voulu connaître le sexe non plus après tout ça ?
Si. En fait, on a voulu connaître le sexe fin juillet. Mmh. Pour aussi se projeter,
ouais.
Mais on l'avait dit à personne.
D'accord.
Mais du coup, c'est marrant parce qu'après, bon, on a fait visiblement... Mon mari a fait une grosse boulette. Il ne veut pas l'admettre, mais il avait fait une grosse boulette. Et moi, j'ai fait une boulette avec une très bonne amie, mais qui n'avait jamais rien dit. Mmh. Et je pense qu'on a été un peu plus apaisés de savoir le sexe.
Vous avez pu aussi permet... vous projeter, vous choisir son prénom peut-être, ce genre de choses,
prénom, les vêtements. Ouais. Bon, après, c'était du calcul, il fallait faire super gaffe à tout, mais il y avait un petit côté excitant. Du coup, on s'est dit, allez, on remet une petite flamme là qui s'était éteinte et
remettre un
qui
peu
fait
de
du bien
dans tout ça, un petit peu de joie.
C'est ça.
Carrément.
Voilà, et puis à l'arrivée, bébé, jusqu'au bout, il nous aura fait attendre. je suis partie dans la nuit du jeudi, après avoir fait 8 km de marche avec ma copine Hélène, à faire de la prospection pour vendre des maisons. Et elle a fait accoucher toutes nos copines. Donc je me suis dit, c'est mort, elle va me faire accoucher aussi. Et ben bingo, je suis partie dans la nuit et j'ai accouché que le samedi matin. À mon grand désespoir. Ouais. Ah ouais, avec un triple déclenchement du coup. Donc long, mais on était dans notre bulle. Ouais. Mais c'était trop bien.
Ouais, cool.
Ouais, vraiment trop bien.
Comment s'est passée la rencontre avec ce petit Gaspard ?
Alors, petit Gaspard, la rencontre se passe super bien. L'accouchement a été long, le travail a été long, mais l'accouchement a été génial. J'avais une trop belle équipe dans la salle de travail. J'ai eu le temps de le prendre en peau à peau et après, bien évidemment, il faut un couac, la délivrance ne se fait pas.
Ouais.
Donc c'est Thibaut qui gère le peau à peau et la rencontre. Moi, je me souviens de regarder et de me dire, il a une main.
Mmh.
Et de re-réaliser, mais non, il n'a pas de main. Mais en fait,
il en avait une. Il en avait une. L'information, c'était que du côté droit. Ouais.
Oui. Enfin, il a deux mains, pardon, oui. Mais en fait, il n'en avait qu'une.
Ouais.
Et puis... la délivrance se fait, ils me refoutent un coup d'ocytocine et de, enfin voilà, ils ont été manuellement, ça c'était un peu avec une gynéco qui dit, oh, j'espère pas aller au bloc, hein, ça fait 24 heures que je suis là. Désolée, excusez-moi d'avoir un utérus pourri, c'est pas de ma faute.
Et non, mais en fait, tu vois, c'est l'accumulation quand même, parce qu'entre ce parcours PMA où tu prends toute la culpabilité, tout le poids, puis en plus à la fin, on te dit que presque ton utérus, il est encore pas efficace, tu vois.
C'est ça.
Non, mais en fait, psychologiquement, c'est dur en fait à entendre ce fin. Tout ce parcours de maternité entre la PMA, la grossesse, les diagnostics. Enfin, à la fin, mais tu dois être psychologiquement... Tu te fais accompagner un petit peu pendant ce moment-là, d'ailleurs, ou pas ?
Oui, j'avais été accompagnée par une psychologue de l'hôpital, et puis après, j'avais trouvé une autre psy pour décharger, parce qu'il y avait besoin.
C'est lourd,
et ça a été très lourd. Et puis pendant la PMA, j'avais été accompagnée aussi. Le Covid ne m'avait vraiment pas aidée. Après, tout s'est enchaîné, en fait. Et voilà, j'avais vraiment besoin d'être accompagnée. Et heureusement, après, ce gynéco-là, je me souviens même plus de sa tête. Elle m'a même pas félicité. Enfin, elle prêtait aucune attention.
C'était très mécanique, finalement.
Ouais,
après, ça s'entend, 24 heures de garde, machin, tout ça. Mais bon, encore une fois, c'est de l'humain et c'est pas simple, quoi.
Elle pouvait s'abstenir. Mmh. Je comprenais, hein, ça l'embêtait d'aller au bloc. Hein, j'entendais, hein, mais moi aussi, ça m'a embêté.
Et puis toi, tu avais d'autres chats. Enfin, ta priorité à ce moment-là, c'était pas de lui permettre de rentrer plutôt.
Non, c'est ça. Et moi, ma priorité, c'était d'avoir Gaspard dans mes bras. Mais voilà, Gaspard se porte très bien. Le retour de couche se fait bien. Mmh. On est dans notre bulle. On l'annonce à tout le monde. Ouais. C'est trop chouette. Tout se passe bien. Gaspard, ils se sont plantés complètement dans le poids. Total. Voilà.
Il est plus petit ou il est plus grand?
Il est plus petit en poids. Ouais.
Okay.
Beaucoup plus petit en poids. On saura pourquoi après. Ouais. Mais
Trop ce suspense.
Ouf, j'adore ça. Mais non, tout se passe bien. La matière... En fait, on n'a pas forcément un accompagnement, mais voilà, on est dans notre bulle. Après, moi, ça m'interpellait. Gaspard, il buvait pas très bien ses bibes et tout ça.
Ouais.
Mais...
Pas d'allaitement, tu t'es passé...
Je voulais faire une tétée d'accueil, mais du coup, vu que j'ai eu la délivrance manuelle, je n'ai pas pu. Et puis qu'après, elles m'ont dit, vous ferez ça à l'étage. Et puis, personne n'est venu. Donc, du coup, j'ai pas fait.
Puis bon, peut-être ton corps, il avait déjà pris cher aussi.
Oui, je pense. Oui, il avait pris très cher.
Ok, donc non, parce que tu vois, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. On me dit quand t'es à un allaitement sain, tant que ça se met en place, c'est un peu, tu vois, un peu chaotique parfois. Les bébés prennent pas tout de suite, mais quand t'as le biberon, t'as pas cet aspect-là de démarrer, tu vois. Donc tu le vois plus vite quand il y a un souci sur l'alimentation, généralement.
Ouais. Là, les biberons, c'est clairement. Il buvait pas beaucoup, donc on s'est dit que ça allait être normal et que il avait du mal à atterrir parce que le travail avait été long. Et puis la tétée d'accueil, j'ai vite fait un deuil sur ça. Je me suis dit tant pis, c'est pas la priorité. Et puis
c'était pas quelque chose auquel tu tenais particulièrement peut-être.
Non. Non.
Ok. Et donc, au début, il ne boit pas trop de biberon. Comment il est? C'est un bébé. Est-ce qu'il fait cette fameuse nuit de Java ou est-ce qu'il est plutôt calme? Est-ce qu'il est
Alors, j'ai toujours cru que c'était une nuit de Java, mais en fait, avec du recul, je me dis que c'était pas du tout une nuit de Java, c'était une nuit de douleur en fait. Mais sinon, c'était un bébé. Il était calme, il disait rien, il dormait beaucoup. Ouais. Mis à part au moment des biberons où il s'énervait, mais sinon, non, il était plutôt cool. Et puis, je pense que j'étais beaucoup dans ma bulle où, moi, là j'ai rarement senti autant de bien-être et de bonheur, c'était là.
Ah ouais.
Alors, j'ai eu une petite descente d'hormones, hein, faut pas le cacher, mais je me sentais tellement sereine et pour moi, tout allait bien se passer. Ça allait rouler, le démarrage était dur, mais ça allait bien se passer.
Il arrive à reprendre un peu de poids, parce que tu sais, les bébés perdent du poids, est-ce qu'il refait ce petit...
Eh bien, il avait perdu, puis il a bien remonté après. Et par contre, quand on est sorti, on est vu par une pédiatre qui nous dit qu'il faut qu'il boive des 150 toutes les 4 heures. Ok, 2 kilos 9, c'était énorme. Ouais. Donc, on passait à peu près une heure et un quart à lui faire boire ses bibes.
Vous faisiez que ça, quoi.
Oui. Que ça. Donc, on a essayé plein de lait, on a essayé plein de tétines, on a
un magasin... le marché du biberon.
C'est ça. On a un magasin de périculture à la maison, hein, si besoin. Mais il fallait qu'il boive cette quantité. Après, la sage-femme venait à domicile, il reprenait du poids, donc pas alarmant. Et puis arrive le jour du premier petit rhume, où on se dit... bon. Allez, on
il fait est né à quelle période de l'année?
Novembre.
Novembre, oui.
Ouais. Donc, 19 saison. Novembre, deux saisons, et puis grosse épidémie de bronchiolite en 2022. Et là, on était vraiment dans le dur.
Sorti de tout ça, les enfants qui avaient été très protégés, du coup, l'étaient un peu moins.
C'est ça. Après, on avait vu un petit peu de monde, vraiment les très proches, mais on avait... pas vu forcément trop de monde non plus. Mais voilà, le premier petit rhume arrive et on se dit, c'est pas grave, on va laver le nez et puis ça va se faire.
Ouais.
Et puis non, ça ne se fait pas. Ça dégénère et puis je vois bien qu'il est en souffrance et il a vraiment tous les symptômes d'une bronchiolite. Donc, premier départ aux urgences le 4 décembre.
Oui, donc vraiment tout petit, quoi, 2 semaines.
15 jours.
Ouais.
Ouais. Avec des biberons vraiment très chaotiques, vraiment, vraiment, vraiment très chaotiques. Et donc, on est hospitalisé pendant une semaine et puis bronchiolite, chute d'hormones.
Ouais, tu
Je te
vois.
raconte pas le combo, mais faut être debout, faut tenir. Donc on se passait le relais avec mon mari, une nuit sur deux, chambre double, pose d'une sonde nasogastrique, appareil à oxygène à haute concentration. Puis finalement non, parce que s'il y en avait pas assez dans le
Oh là
service,
là.
donc il fallait débrancher un
Fallait
enfant
débrancher un bébé
de.
pour donner à un autre. Oh, c'est dur.
En fait, on croit que quand on écoute à la télé, ça arrive partout ailleurs sauf chez toi, mais si, là,
Ouais.
ça a été le cas. Et puis finalement, bon, non, en fait, Gaspard, il n'en aura pas besoin. Bon, d'accord. Donc, il a lutté pendant une semaine, Gaspard, et puis ils nous font sortir de l'hôpital en nous disant, vous inquiétez pas, il a encore des signes de lutte, mais c'est normal, vous tracassez pas, ça partira avec le temps. Et puis, ben, on rentre, et puis on retourne à l'hôpital le lendemain matin.
Ouais.
Parce qu'il redécompensait. Et puis là, vraiment très fort quand même. On est réhospitalisé 15 jours. Donc là, je
15
commence
jours, c'est
vraiment.
long quand même, hein.
Oui.
Parce que les bronchiolites, c'est quoi? C'est une semaine,
Une
dit...
semaine,
Ouais.
même 3 jours. En
Ouais.
fait, ils estimaient 24 heures sans oxygène et
Ok.
on faisait sortir l'enfant. Là, il tachycardait à plus de 200
Ah ouais,
pulsations
quand même.
cardiaques par
Ah.
minute. Mais on est rentré le matin, on a été vu par un médecin qu'à 22 heures. On voyait Gaspard partir. Là, par
Ah
contre,
ouais.
ça a été ouais, vraiment très, très, très compliqué. Et il avait une surinfection bronchique en plus. Donc là, du coup, perfusion. Mais bah, du coup, vu que Gaspard n'a pas de. Il avait qu'une main,
Ouais.
donc encore plus
Ah
compliqué
oui.
pour piquer.
Bah oui.
Donc voilà, 15 jours hospitalisés. Et puis, on sort. Au moment de Noël, donc là on se dit bah à Noël on reste isolé et c'est pas grave, on reste à quatre et ça a été dur,
Ouais.
vraiment. Alors mes super copines nous avaient fait quand même le sapin de Noël, elles avaient pris la clé de la maison en cachette et puis elles avaient fait le sapin, adorable.
Trop mignon.
Franchement, ça
Ça
redonnait
compte.
un peu de.
Ça
Oh,
compte. Ça compte
tellement.
ce village-là qui est là
Et.
pour toi, même si ils peuvent rien faire, mais ils font quand même, tu vois.
Ouais.
C'est.
Vraiment,
Ouais.
et ma copine Hélène, elle était enceinte de 7 mois et elle était là à
Oui.
mettre les guirlandes et allez, soyez forts et on est là. D'autres copains qui nous avaient fait des paniers garnis, d'autres qui. Enfin,
Bon,
on
c'est
a été,
chouette.
mais c'était fantastique. Et Noël fut dur, mais on se dit que ça va aller, mais non, toujours pas.
Bon.
Gaspard ne prend pas 1 gramme et les biberons sont encore pires. Et arrivé le 30 décembre. Réhospitalisation avec avis du médecin traitant là par contre qui nous dit bah non là effectivement faut y aller il lutte et il recommence donc c'est reparti là par contre Cindy qui était un peu au fond du trou est dans le fond du trou total et par contre elle est très énervée aussi
Ah oui.
oui et une femme sous hormones énervée c'est pas toujours commode
Qui t'a tapé qui?
La chef de service, elle a eu de la chance. Non, l'interne nous a pris de haut en nous disant que c'était de notre faute. S'il avait chopé une bronchiolite, c'est certainement qu'on n'avait pas fait attention.
Oh mon Dieu.
Et là, mon mari lui dit, nous dites pas ça, on a fait Noël isolé comme quatre cons à la maison. Non. Bah, c'est certainement en allant chez le médecin qu'il a rechopé ça. Waouh,
Pardon.
ok. Ouais, non, mais t'as le droit. Et là, on a demandé à la chef de service de venir. Mais ça les embêtait un vendredi, tu comprends,
Ah,
30
puis nouvel
décembre.
an.
Bah voilà, tu comprends. Et la chef de service vient, fait le point et nous dit bah, que ça arrive malheureusement et qu'on n'a pas de chance. Ouais, mais là, par contre, vous allez faire des examens
Ouais, c'est
parce
ce
que
que
ça ne va
j'allais dire.
pas
Il n'y
être
a jamais eu
possible.
un examen plus approfondi que la bronchiolite, même si on comprend, hein, c'est l'épidémie, il y en a beaucoup et c'est ce qui paraît logique. Mais comme ça, coup sur coup, c'est intense.
C'était normal, ça arrivait.
Ouais.
Donc, on était re en chambre double, parce que je ne fais pas le débrief des chambres doubles où c'était horrible, où on devait s'occuper des autres enfants. Enfin bref,
Ouais.
on a eu des vertes et des pas mûres, où là on demande une chambre seule, parce que ça commence vraiment à taper sur le système. On connaît très bien du coup les équipes, qui étaient fantastiques. Et on a le droit à la chambre double le lendemain. Et puis là, on nous parle qu'on va faire effectivement des examens. Donc échocardiaque, radio-pulmonaire, un scanner, des prises de sang. Et puis des analyses génétiques. Et on nous reparle un petit peu de
Ah
génétique
ouais.
avec un généticien qui revient nous voir, tout ça. Donc on attend. Là, Gaspard, il est sous haute concentration. Toujours la sonde nasogastrique. On refait le même
Ouais.
schéma tout le temps. Et puis le généticien vient le 5 janvier. Donc c'est quand même passé déjà une semaine. Et puis, nous demande si on a des pathologies génétiques dans la famille. Non. Nous demande s'il y a des pathologies cardiaques. Non. L'échographie cardiaque montre rien de spécial. Au fur et à mesure, on éliminait beaucoup de choses. Les échos et aux abdos étaient bonnes. Il n'y avait rien de spécial. Et puis, on nous parle de faire le test muco,
Ouais.
un test à la sueur pour éliminer la mucoviscidose.
Ok. Mucoviscidose qui est censée être testée dans les premiers
Avec
jours
le
de vie.
test,
Ouais.
voilà,
Ils
le test
viennent
de
faire le petit
Guthrie.
point sur les petits pieds des bébés.
Oui, c'est ça.
Et c'est ça que ça reconnaît. Enfin, il y a peut-être d'autres choses. Hein. Je ne suis pas très au fait sur ça, mais je sais qu'il y a ça en tout cas.
En 2022, ils ont élargi du coup
Ouais.
à 14 maladies
Ok.
de mémoire, je crois, et dont bah, le test de la muco qui est toujours dedans. Donc voilà, on nous parle de faire ce test. C'était le vendredi 6 janvier. Ils viennent, l'équipe du centre muco vient, et puis moi j'étais pas là, c'était pas mon tour de garde entre guillemets. On a Thibaut en visio avec ma maman qui nous dit bah oui, ils sont venus faire le test et tout ça, mais qui nous ont dit que bah, c'était très rare
Ouais.
qu'il y ait un faux négatif au test de Guthrie. Fallait pas qu'on s'inquiète.
OK.
Voilà. Moi, entre-temps, j'avais vu ma sage-femme qui diagnostiquait plus ou moins une petite dépression qui s'installait.
Bon, moindre des choses, j'ai envie de dire, dans cette
C'est ça.
situation. Enfin, je veux dire, ça aurait été étonnant autrement.
Voilà. Donc, il me
On
trouve
en
un
rit, on en rit, mais
créneau.
c'est pas marrant.
C'est pas
Voilà.
marrant, mais
Ouais.
effectivement, avec du recul, je me dis comment t'aurais fait pour ne pas lâcher en même temps. Elle me trouve un créneau avec la psychologue du centre où j'allais, qui effectivement me diagnostique direct en
Ouais.
dépression postpartum très sévère,
Ah ouais.
avec des idées qui n'étaient pas très claires, on va
Bah, tu peux
dire.
dire il est suicidaire, hein. Je veux dire, on n'est pas
Voilà.
censuré par qui que
Non.
ce soit ici.
Il y avait des idées noires et idées suicidaires qui étaient quand même assez présentes. Et puis, elle me prend pas à l'heure et ça m'avait agacée. Et moi, je prends la route, Thibault me répond pas. Je me dis qu'il doit avoir du mal à endormir Gaspard parce que, bon, à l'hôpital, depuis un mois, on n'a pas un rythme. Et puis, j'arrive, le couloir est d'un calme et d'un désert où je me dis, c'est bizarre, dis donc. C'est calme, vraiment très calme. Et puis j'arrive dans la chambre et puis Thibaut pleure au bout du lit. Je dis, bah ça va pas, il dort pas, qu'est-ce que t'as? Et puis il me dit, il a la muco.
Ouf.
Et là je me revois poser mes sacs, je dis, mais non. Il me dit, si, il a la muco. Et il s'effondre. Je dis, mais qui est venu te dire? Moi je comprenais rien, je ne savais plus comment je m'appelais, mais je me souviens de sourire. Pourquoi, je ne sais pas, mais parce que je me devais de rassurer Thibaut et de dire à Thibaut, ça va aller, ça va aller. La muco, ça se soigne très bien, ça se soigne pas, mais ça va aller. Et là, il m'explique que en fait, le test à la sueur est revenu positif. Donc en fait, on provoque de la sudation à l'enfant et le taux de chlorure de sodium, quand il est positif, il monte, il monte. Et là, il était haut. Et en fait, il s'avère que le test de Guthrie, c'était un faux négatif. Le seuil était à 65, je crois, et nous, on était à 62 ou 63.
Ouais, quand même très proche.
Donc là, moi, pour moi, il y a eu un loupé, mais bon, on refera pas les,
Tu feras pas
on refera
l'histoire.
pas
Mais
l'histoire.
alors, quand
Non.
même, qu'on mette sur les choses, enfin, c'est que toi, en une journée, tu te prends un double diagnostic de dépression postpartum sévère et la mucoviscidose de ton enfant.
Voilà. Tu te
C'est.
dois d'être debout et tu te dois de. T'as pas le choix. Et puis, c'est un silence. J'oublierai jamais ce silence dans la chambre. On a quand même les bips, bips, bips de Gaspard, là. Et puis là, après, s'enchaîne de 15h à 21h. Ça ne s'arrête pas. Ils refont un deuxième test à la sueur. Là, par contre, je m'effondre parce que je réalise qu'il y a le centre muco qui est là et. Et on parle de Muco et elle arrive avec tous ses documents. Et puis j'ai l'impression que tout avait été orchestré en
Ouais.
fait. Et en fait, Thibaut, un peu plus tard, me raconte que la chef de service est venue voir Thibaut pour savoir comment il allait et pour savoir quand est-ce que j'allais arriver. Et Thibaut dit, bah, si vous voulez nous voir, c'est que vous avez quelque chose à vous nous annoncer. Ah non, on fait ça à chaque test comme ça, on organise un temps. Ok. Et puis elle était à peine sortie de la chambre que le centre muco était arrivé. Et puis là, il ne se pose pas de questions. Ah bah non, non, on va dans la chambre. Donc Thibault, il voit tout le monde arriver, il regarde l'infirmière et puis il lui dit, bah, vous voyez, on fait encore partie des gens à qui ça n'a rien, c'est pas censé arriver. Et elle baisse des yeux et puis bah, le professeur lui dit, bah, vous avez compris, bah oui, j'ai compris, en fait, Gaspard a la muco. Mais ils n'ont pas daigné de penser à se dire, on va peut-être l'annoncer à votre femme ou on va peut-être revenir.
Oui, c'est vrai que souvent dans les histoires de diagnostic comme ça, assez intense et grave, on réunit dans un bureau, où on attend, on fait des choses autrement que seul, avec ton enfant à côté, ou pas à côté, enfin peu importe, mais seul dans une chambre, et où en fait finalement, ça reste, la responsabilité de te l'annoncer, elle lui revient en fait.
Oui.
Et c'est déjà dur à encaisser, mais alors devoir l'annoncer à ta femme en fait, enfin à la mère de ton enfant, c'est double peine parce que tu mets des mots dessus alors que toi t'as peut-être pas encore assimilé bien. Et puis tu dois expliquer à quelqu'un et tu sais que tu vas lui faire du mal en plus en lui disant ça. Donc c'est horrible.
Ouais. Thibault en fait avait plus ou moins prévu son discours, mais en fait quand il m'a vu arriver, on prépare rien. Et puis après là c'est pareil.
Ouais.
Comme tu disais tout à l'heure, il y a des soignants.
Il y en a des très 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 bons, beaucoup de très très bons, mais il y en a qui sont un peu moins empathiques. Quoi.
Voilà. Après, du coup, ça a été le défilé dans la chambre. Voilà. J'ai l'impression que tout était orchestré, mais on a eu des très bonnes explications. Mmh. On a eu des. Mais tout allait trop vite. Ouais. Fallait tout digérer.
T'avais déjà entendu parler de la mucoviscidose avant?
Oui, forcément, avec Grégory Lemarchal.
J'ai la même rêve.
Voilà. Après, moi, dans mon boulot, j'en avais entendu parler.
Ouais.
Oui, entendu parler. Et puis la veille, bon, ça va faire. C'est très bizarre ce que j'ai fait, je vous l'accorde. on nous parle de muco, et puis bah, forcément, hein, Google, mucoviscidose, symptômes. Et puis, c'était. La muco, c'est la maladie des bisous salés, parce qu'ils perdent trop de sel.
D'accord.
Donc, en fait, quand on fait un bisou à un muco, il est vraiment très, très salé. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai un peu léché Gaspard pour voir s'il était salé.
Oui, les animaux le font, on peut le faire, ça va.
Voilà, pourquoi pas. Et puis, j'écris, je me revois écrire à Thibault et je dis, putain, il est vraiment salé quand même. Mais bah, je me mens à moi-même. Il n'avait que ça vraiment comme symptôme. Non. Et une prise de poids très difficile.
Ouais. Et puis, les biberons difficiles et puis finalement, les grosses difficultés respiratoires quand même.
Respiratoires, c'est ça. Mais à part, oui, Grégory Lemarchal, pas mal de célébrités, en fait, qu'on a entendu parler. Je trouvais qu'on entendait un peu plus parler de la muco ces derniers temps.
Ouais.
Mais je m'y étais pas forcément attardée, entre guillemets.
Oui, ça te concernait pas.
Non.
Ah, voilà.
Je vais pas dire que je soutenais, mais force et courage à ces gens-là. Et vraiment, tout mon respect, mais... Mais pourquoi ça n'allait pas nous arriver? On avait déjà eu tout avant.
Oui, et puis de toute façon, c'est comme un peu tout. Quand tu n'es pas vraiment concerné par la cause, c'est comme difficile de... Bah de c'est pas d'être en empathie, parce qu'on est en empathie, mais de comprendre.
Oui. Voilà. De comprendre, c'est ça. D'imaginer, en fait, et puis on n'a pas les bonnes informations sur la muco aussi, parce qu'on nous parle... Moi, la muco, c'était que pulmonaire.
Ouais.
C'était que pulmonaire, transplantation pulmonaire et tout ça, alors que la muco, ça touche aussi le système digestif.
Oui.
Donc, avec tout ça, quand on nous explique qu'il va falloir donner des microbilles à Gaspard, avant chaque biberon, et qu'on va voir, ça va être magique, il va prendre du poids, et bah oui, effectivement, en fait, on lui donne des enzymes pancréatiques, du créon, parce que le Gaspard ne digère pas du tout, et tout repart, en fait, aussi sec.
Ah, d'accord.
Donc c'est pour ça qu'il ne prenait pas du poids, et en fait, on lui donne ça, et il fait des bons au niveau de l'alimentation. Impressionnant, et au niveau du poids aussi. Après, on lui met du sel, on lui met du gras, parce que en fait, les mucos doivent manger gras et salé, vu qu'ils perdent beaucoup de sel. Et voilà, au fur et à mesure, tout se met en place, et ça se met bien en place, mais les premiers jours... J'ai la cadre qui vient le soir même dans la chambre sans frapper, avec le professeur en face de moi, et la psychologue m'a appelée... Donc, la psychologue que j'avais vue le midi.
Ah oui, d'accord.
Il y a quand même un gros risque suicidaire. Vous n'allez pas rester comme ça. Ne restez pas comme ça cette nuit.
Beaucoup d'injonctions.
Mmh. devant le professeur qui ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam et c'est quand même un monsieur qui va suivre Gaspard jusqu'à ses 18 ans. Donc, bon, ouais. Déjà, l'image...
Au-delà de l'image, c'est que ça reste... En parler, parce que oui, bien sûr que de toute façon... Après, c'est pas faux, t'étais en détresse, ça peut être dangereux, et en effet, c'est quand même une bonne chose que ce soit pris en compte. Mais encore faut-il que ce soit bien pris en charge, en fait. Parce que ça reste de l'intime, la dépression, elle arrive pour x ou y raison. Ton gros bagage, en est sans doute la cause, mais en fait, il y a aussi certainement d'autres choses et qui n'ont rien à voir avec ça. Et c'est un gros mélange, c'est un gros gloubi-boulga de plein de choses. Et en fait, si elle veut t'en parler, il y a des façons de faire, en fait. Juste, surtout sur ces sujets-là, c'est très délicat. Il faut mettre les personnes à l'aise dans un cocon pour justement les envelopper. Il y a vraiment ce truc d'enveloppement. Et là, tu as l'impression d'être mise à nu. Au contraire, tu as l'inverse de l'enveloppement, quoi.
Exactement. Et ce sentiment de jugement où, du coup, elle me dit, limite, vous passez quand à l'acte ?
Vous n'êtes pas assez forte pour votre enfant.
Et je la regarde, je dis, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas sauter par la fenêtre cette nuit, hein. Vous ne tracassez pas. Et puis j'en profite, parce que j'avais été juste avant dans son bureau, un peu en mode, je ne vous laisse pas le choix, vous nous mettez deux lits, on dormira tous les deux avec Gaspard cette nuit, parce qu'on va aussi prendre le temps de nous digérer tout ça. Et je n'ai pas du tout apprécié son comportement, mais bon, ça a été une chose, et puis il a fallu l'annoncer à nos parents. Moi, je crois que ça a été la pire, outre le fait d'encaisser, mais je pense que j'ai refoulé l'annonce. Je me suis dit, de toute façon, je voulais sortir de la chambre toutes les deux minutes. Il fallait que j'appelle, il fallait que je bouge, il fallait que je sorte, il fallait pleurer, sourire. Je savais même pas, en fait, ce qu'il fallait faire, mais l'annoncer à mes parents. Horrible. Non. Horrible. Après, il fallait le faire, il n'y avait pas le choix. Après, il y a eu la famille, les frères, les sœurs, les amis proches. Ça, c'est des annonces qu'on n'oublie pas.
Ouais. Tu les as appelés un par un. Tu as eu la force de faire ça?
Frères et sœurs, je ne m'en souviens même plus. Non, j'avais demandé à maman, à mes parents, de prévenir mon frère et ma sœur. Mais entre-temps, du coup, en fait, nous, on est un petit bled où tout le monde se connaît. Ouais. Et je me suis dit, oh là là, ça va s'apprendre trop vite. Et je ne voulais pas louper qui que ce soit. Là aussi, j'ai pas pensé à moi. Et j'ai plus pensé aux autres qu'à moi. N'importe quoi. Et du coup, entre-temps, je pense que j'ai essayé de faire au mieux. Ouais. Et après, les amis, j'ai appelé une amie, Aurore, et qui elle ensuite a appelé le... On a un petit groupe de cinq qui elle ensuite a appelé les autres copines, dont la marraine de Gaspard, ma meilleure amie. Mais j'arrivais pas.
Attends, en fait, c'est revivre à chaque fois. L'annonce, c'est de voir. Et tout ce que finalement ton mari a vécu avec toi, c'est faire la même chose, en fait. Parce que c'est toutes ces personnes-là qui vous aiment et qui aiment votre fils et qui... En fait, même s'ils sont passés parents, ben, vont être aussi touchés et vont aussi avoir mal de l'entendre, en fait.
C'est ça. Et puis, je me revois mes deux copines venir me voir à l'hôpital, parce que du coup, on a été dans notre bulle pendant quasiment deux mois et demi. Et puis, je dis, de toute façon, on fait le test de l'amico demain, mais il manquerait plus que ça. Ce serait pas possible. Et puis, elles me disent, mais oui, non, attends, c'est pas possible. Et puis là, les appeler, leur dire, ah, si, en fait, c'est ça. Non.
Ouais.
Mais bah, faut se relever, hein, faut se relever. Il a fallu faire avec, on va dire. Là, ça a été, une autre étape où Gaspard était un petit peu plus stable au niveau médical. Il prenait plus du poids, il buvait mieux, parce que les traitements étaient mis en place. Il se rechoppe une bronchiolite à VRS, où là, pareil, l'interne arrive et elle se désinfecte à peine les mains. Et puis, il a rechopé un VRS, d'accord, ok. Et puis, Gaspard avait fait caca, et puis elle en a sur les mains, la pauvre petite dame, et elle s'essuie sur Gaspard.
Et là, attends, pardon.
Ouais, je te jure. Et là, je regardais Thibaut, j'ai dit, tu l'enlèves de ses mains, et elle va prendre la porte, par contre. Et c'est la première fois, vraiment, que là, C'est même pas de prendre mon courage à deux mains, mais ça a été plus fort.
Bah non,
que
c'est
moi.
L'instant, comme c'est pouf, il n'y a pas de filtre. Hein.
Elle fait son auscultation, elle lui parle même pas, il hurle, elle le laisse en body. Mais pauvre petit père, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on lui en a fait endurer? Et là, je la regarde, je dis, maintenant vous prenez la porte, mais vous ne reprenez plus jamais, vous ne l'ouvrez plus jamais en fait. Avant, on avait eu une autre pédiatre aussi, où elle faisait ses transmissions devant la porte. Et puis, l'interne lui dit, bah, ils sont adorables les parents, mais ils sont très demandeurs. Et le pédiatre dit, oui, bah, va pas falloir qu'il me fasse chier ce matin.
Mais et enfin du coup, ouais.
Et le problème, c'est que moi, j'ai une très bonne ouïe.
Non, mais quand bien même, en fait, juste, c'est un moment où, même si t'as pas une bonne ouïe, enfin, c'est que c'était pas très loin quand même. Tu n'écoutes pas à travers les murs et à travers les hôpitaux. Enfin.
Non, non. Et puis elle rentre. Bonjour. Oh, autant dire que moi, je suis très expressive du visage. Vous avez des questions? Ah non, surtout pas. On ne va pas vous poser de questions, vous inquiétez pas. Ouais, franchement, on a pris,
mon
on
Dieu,
en a
mais
pris.
C'est immonde.
Nous imposer une psychologue, parce qu'ils voyaient bien qu'on était en détresse.
Bah, peut-être que s'ils arrêtaient de dire que vous les emmerdiez, déjà, ça irait peut-être un peu mieux.
Ah, puis moi, j'étais braquée, donc c'était même pas la peine. C'était même pas la peine. Voilà, et puis là, ça a été l'étape un peu compliquée où il va falloir envisager une sortie. Il va falloir envisager de rentrer à la maison. On a repoussé les moments parce qu'on avait peur. Déjà, de sortir du couloir avec Gaspard, on ne l'a pas fait.
T'avais peur qu'il échappe un truc?
Ouais. Pour moi, il était vulnérable pour tout.
Ouais.
Rien que de respirer, pour moi, il allait attraper quelque chose. Donc, l'étape de la sortie a été un peu dure. Il y a eu l'étape aussi où on ne passait plus de temps tous les deux avec Thibaut.
Ouais, bah oui,
on passait beaucoup de temps à se prendre la tête quand même. Donc là, il fallait passer un peu la main. Donc, je me rappelle d'Aurore qui est venue plusieurs fois le garder, le temps qu'on aille au resto. Ma maman, le temps qu'on aille sur la côte, prendre l'air. Et puis, le jour arrive où il faut sortir. Dur. Mais on se dit, allez, on va y arriver. On rentre à la maison et ça va bien se passer. Et moi, je sens que je sombre. J'avais été voir mon médecin traitant et je lui avais dit, je sombre. Là, je tombe. J'avais plus de force, j'avais plus de jus, j'avais plus rien. Et donc, il me met sous antidépresseur, parce que là, c'est un désert médical aussi, pour avoir un psychiatre et pour avoir tout ça. Et je me souviens d'une journée où c'est un blackout, parce que je ne supporte pas les antidépresseurs, je ne me souviens pas de la journée. J'ai été au restaurant avec des copines, je ne m'en souviens pas. J'étais, je pense, défoncée même. Et arrivée à la maison, j'ai dû tenir une semaine, je crois, et... Et j'ai demandé à être hospitalisée.
Ouais.
C'était trop dur. Je vivais dans la peur, dans l'hypervigilance tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je ne dormais plus. L'alimentation, ça a été le fléau. Et c'est encore le fléau de toute façon. Mais là, je ne pouvais plus. Donc, j'ai demandé à partir. Et donc, j'ai été hospitalisée pendant une semaine. Cinq jours. Je suis revenue dans le même état. Ouais.
Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi pendant cette hospitalisation?
Ça a été du repos, beaucoup de sommeil. Et j'ai vu une fois la psychologue.
Une fois? Et c'était quoi comme type de centre? Enfin, t'étais en...
C'était une unité de courte durée,
okay.
De psychiatrie.
Ouais, ok. Et c'était périnate ou pas du tout périnate?
Pas du tout. Ouais. On est en... Par chez nous, on est, c'est très pauvre, d'accord. La périnatalité.
Okay.
Et il faut avancer, il faut continuer. Et puis, je sors. Et puis, on essaye de tenir. On pense à reprendre le travail. Ah. On pense à le mettre chez la nourrice. Parce qu'il y avait aussi la question de la nourrice. Comment on fait? La nounou, elle est fantastique. Et elle nous dit, on va y arriver. Ça sera un travail d'équipe et on va le faire. Il faut trouver un kiné. Et là, j'ai la chance où je me dis, furieux, heureusement qu'il y a notre pôle et où j'ai eu un flash en me disant, mais oui, tiens, le kiné là, il fait la muco. Et en fait, il travaillait au centre muco avant. Donc, je me dis, parce qu'il y a des parents où ils ont dû appeler 30, 40 kinés avant de trouver quelqu'un. Et je pense qu'on a repris un peu trop vite.
Sans blague.
Il a... Il a fallu se relever très vite et il a fallu avancer. Et
bah, en fait, vous êtes sortie de l'hôpital avec un bébé avec ce diagnostic-là. Et en fait, en gros, c'était comme si vous deviez reprendre une vie classique, d'un postpartum classique, d'une reprise. Alors qu'en fait, il n'y a rien de classique dans ce début de vie, il n'y a rien de classique dans ce postpartum, en fait.
Rien. En fait, je pense qu'on a voulu minimiser en se disant « mais on va y arriver, on va s'en sortir et on n'a pas le choix ». Et en fait, on se ramassait des petites claques quand même, très souvent. Et moi, je pense qu'il était grandement nécessaire que je reprenne le travail parce que sinon, j'allais m'enterrer, en fait. Mais il fallait trouver un rythme, il fallait faire confiance, il fallait se faire confiance. Et ça a été vraiment très compliqué. Et arrivé en juillet, du coup, l'année dernière, où bon, là, j'ai reflanché, j'ai redemandé une hospite. Pendant mes vacances d'été, j'ai bien fait ça, comme pour ne pas embêter mes collègues. Mais je suis retombée. Donc là, on a essayé de repartir au plus ou moins de zéro. Où j'ai demandé une convalescence après, mais en fait, on est en été. Il n'y avait pas de psychologue. J'ai pas vu une psychologue. Les psychiatres me disaient que ce n'était pas ma place d'être ici. J'avais juste besoin d'être en repos, en fait.
Ouais, t'avais quand même une dépression du postpartum sévère. C'est quand même une maladie psychiatrique. Donc, je vois pas pourquoi t'avais pas ta place là-bas.
Bah ça, je ne saurais jamais. Mais ceci dit, la prise en charge était très bien. Ça n'empêche.
Ouais, mais dire à une femme qui est dans une détresse, plus, qu'elle n'a pas sa place là, c'est dur en fait. C'est dur parce que ça veut dire quoi en fait? C'est que ta place elle est où?
C'est ça. Et puis, comment je vais faire en fait? Comment je vais faire pour me relever? Ouais. Alors là, j'avais une super psychologue qui me suivait pendant ses vacances, qui m'a appelée, qui a été super. Et puis, je suis sortie et têtue comme je suis, je me suis dit, je ne vais pas remettre encore mes collègues en difficulté parce que je les avais bien embêtés. Ouais. Et j'ai repris dardard une semaine après. Et en fait, bah, on va dire qu'on déplace un problème, en fait. On fait deux pas en avant et on en fait six en arrière. Et c'est tout le temps comme ça. Et puis, on se remet toujours en question sur mais pourquoi nous? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Enfin, voilà. Tous ces questionnements, tout le temps. Malgré que Gaspard, il évolue bien. Le fléau, c'est son alimentation. Le fléau, c'est la prise de poids. On galère. C'est la galère. On se fait aider par les centres mucaux. On se fait aider par les associations. Moi, je me mets sur Instagram et j'essaye de trouver des parents pour nous aider. Et on se dit, bah ouais, en fait, on n'est pas seul. Ouais. On est beaucoup concernés comme ça. Et il y a une mauvaise information de la muco. Moi, j'essaye de relever la tête aussi, mais... Ouais. Il y a des moments où, c'est mon Dieu, les sorties sont compliquées, les fêtes sont compliquées, les repas de famille ou les repas tout court sont compliqués, tout est une lutte, tout est compliqué.
Ouais. Tu te rapproches de quel type d'association pour parler de la mucoviscidose
Vaincre la muco.
Ouais.
Et l'association Grégory Lemarchal. Et après, j'ai essayé, moi, de trouver des gens sur Instagram. Et j'écrivais de moi-même, en fait.
Ouais.
Et après, le centre Muco nous a beaucoup aidés aussi, quand même.
Ouais.
Ils sont toujours très à l'écoute. Ils sont toujours là quand il faut. On a un super kiné aussi qui est fantastique. On est très bien entourés. On ne peut pas dire très bien entourés. Ouais.
Qu'est-ce que les médecins disent par rapport à la vie que Gaspard va avoir?
Alors, la muco n'est plus la muco d'avant.
Ouais.
La muco n'est plus la maladie qui tue à 30 ans ou à 20 ans, où il n'y a plus forcément... Alors, attention, parce que je veux faire attention à ce que je dis, c'est que Gaspard a la mutation F508. Ouais. Il y a plein de mutations de muco. Nous, on a la chance que Gaspard, il ait accès à un traitement que d'autres enfants ne peuvent pas avoir.
D'accord.
Et voilà, c'est pour ça que je tiens vraiment à faire attention parce que dans notre malheur, on a quand même une petite lumière avec ce traitement-là. Et les traitements améliorent la qualité de vie comme jamais. Là, Gaspard a commencé le traitement en décembre, un premier traitement autorisé. C'est quand même fou, il a été autorisé le 6 janvier, le jour de l'annonce de la MULCO. Et il le supporte très bien et il y a quand même une meilleure absorption au niveau des graisses, il y a quand même une meilleure qualité respiratoire, il y a quand même de belles choses.
Mais ça donne de l'espoir en vrai ce truc-là, parce que si tu te dis que si ce médicament il existe aujourd'hui, c'est parce qu'avant, il y a plein de gens qui ont fait des dons pour la recherche et que ça a permis ça. Et c'est incroyable. Et si, tu vois, c'est, si on peut faire aussi ça aujourd'hui, c'est ça, c'est de sensibiliser à ces questions-là. Parfois, on voit des assos demander des dons pour la recherche et en fait, on ne sait pas trop si ça aboutit ou quoi. Ben, en fait, là, tu es la preuve que oui, que tous ces trucs, enfin, de donner de l'argent à des associations pour la recherche médicale, c'est hyper important pour ça. Quoi.
Ouais, ouais. Alors, moi, j'avoue, hein, je donnais de temps en temps à des assos, mais pas forcément ciblées sur une particulièrement. Là, moi, ça a été direct, les deux assos, et voilà, on parle même de se mettre bénévole dans Vaincre la MULCO. Mais on se dit, bah oui, grâce à tous ces bénévoles et tout ce qu'ils mettent en place, mais c'est grâce à ça qu'on a les traitements et que Gaspard a accès aux traitements et à la recherche. Et heureusement, on n'y serait pas sinon, en fait.
Puis ça donne un peu d'espoir à toutes les autres maladies qui n'en sont pas encore là, qui sont pas encore auxquelles on n'a pas encore trouvé le traitement, mais ça arrive. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut rien lâcher et que l'espoir, il est toujours là, finalement.
Ouais. C'est difficile de garder de l'espoir malgré que ce soit encore une maladie qui est incurable. Et qu'on ne sait pas ce qui va se passer et que, comme on dit, Gaspard, il fait jamais comme tout le monde, donc on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais, on m'a secoué les puces, comme je dis plusieurs fois, en me disant, mais Cindy, t'as quand même Gaspard, il est là, il est vivant, il est auprès de toi, vous vous êtes battu pour l'avoir, il se bat, Gaspard, tous les jours, donc il y a un moment où il faut s'y relever la tête et il faut avancer, il faut voir aller de l'avant et avec du recul. Il y a des moments où j'ai du mal à l'entendre, mais je me dis que bah oui, il faut aller de l'avant. Il est là, en fait, Gaspard, on n'a pas le choix. Et il sera heureux, et il y arrivera, et il a besoin de nous, on n'a pas le choix, en fait. C'est...
Mais il ne faut pas oublier quand même que la dépression du postpartum, c'est une maladie, et que ça va au-delà de « il faut relever la tête » et « tu peux le décider ». Ce n'est pas toi qui décides.
Non.
C'est une maladie, et qui dit maladie, ça veut dire que ça se soigne, ça veut dire que ça demande du soin.
Et c'est ça qui est compliqué dans la dépression, c'est que, alors moi j'ai un gros problème, c'est qu'il faut toujours que j'ai l'aval des autres, le regard des autres est très important et ça c'est limite angoissant. Et, et là, d'assumer cette dépression et des fois de se prendre parfois dans des petits coups de pied aux fesses, ça fait mal et on a beau dire mais j'essaye de me relever, j'essaye de tout faire, franchement, là c'est pareil, hein, j'en ai mis des sous hein, dans les traitements et tout ça, mais il y a des fois c'est plus fort que soi en fait, et un petit coup de fatigue, un petit coup de tu crois que tu retombes et non, tu retombes, tu remontes et non, tu retombes aussi sec et c'est les montagnes russes tout le temps.
T'as réussi à avoir accès à un psychiatre qui peut te suivre et qui peut peut-être te trouver un autre traitement parce que les médicaments pour la dépression sont importants aussi parce que c'est ce qui va te permettre de te soigner en fait. C'est qu'à un moment, c'est difficile parce que tu ne trouves pas tout de suite la bonne molécule, le bon dosage et tout ça, parce que c'est tellement du cas par cas. Et c'est pour ça qu'il faut être suivi par des bons professionnels qui vont te suivre pour de vrai et pas juste mettre un traitement. Et ça prend du temps et c'est une béquille en fait, parce que quand tu n'as pas l'énergie de te soigner, d'aller en thérapie, tout ça, ça peut pas marcher. Et ces médicaments-là, ils te permettent ça, en fait. C'est pas juste on met une pilule et on attend que ça passe. C'est vraiment, ça te donne juste la force et l'énergie de pouvoir te soigner.
Alors, j'avais trouvé un bon psychiatre et puis... Je pense que j'ai un peu déconné aussi, où je me suis dit, allez, tu vas y arriver, tu vas le faire toute seule. Et non.
Et ben, Cindy, moi, aujourd'hui, je vais te dire que non, tu ne vas pas y arriver toute seule. Non. Et je pense que ta mission, bon, on est vendredi soir, mais lundi, de prendre ton téléphone et de le rappeler, s'il te plaît.
Oui. Non. J'ai une très bonne psy. On a trouvé un centre dans les traumas.
Oui.
Où on a été diagnostiqué, mon mari et moi, un choc post-traumatique, où où quand on lui a fait tout le résumé, elle a halluciné de tout ça. Et voilà, on a quand même une très bonne prise en charge de ce
Bon.
côté. Après, effectivement, côté traitement, comme on dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés et je fais partie de ça.
Ouais. Après, voilà, vous êtes quand même entouré. Prenez en main les choses, mine de rien. Et ça prend. En fait, il y a aussi ce facteur-là, c'est que ça prend du temps. C'est les traumas, c'est ça. Hein, les traumas, ça met très très peu de temps à s'installer. Par contre, pour les soigner, ça met beaucoup de temps. Et le temps sera votre allié sur ça. Mais tu parles de ton mari et le couple. Comment ça se passe?
Alors Thibaut a eu beaucoup de mal aussi, hein, ça a été compliqué. Après, c'est des périodes. Après, nous, entre nous, c'est des périodes aussi. Il y a des périodes plus faciles que d'autres. Par contre, on a toujours été main dans la main. Après, il y a des moments où on s'agace un peu plus vite, où on se fâche un peu plus vite, où on a peur, où on a... Mais on est... Enfin, je pense pas me tromper, mais on est toujours resté solidaire et toujours à l'écoute, tout le temps,
Vous êtes une
tout le temps.
équipe.
Ouais. J'ai toujours dit, encore ce matin, je lui disais, si on se lâche pas, on est une équipe, on tient. Et que ce soit pour tous les deux et pour Gaspard. Parce que Gaspard, il a besoin de nous deux, ensemble. Et je pense qu'on en a vécu des traumas et on en a vécu des choses difficiles. Et là, bah, on va tenir et on va y arriver.
Est-ce que tu vois un peu la fin de ce tunnel? Parce que bon, oui, la mucoviscidose, c'est une maladie pour la vie. Mais maintenant que vous avez un traitement, qu'il y a des maux, que vous avez une équipe soignante, est-ce que tu vois justement plus d'apaisement, plus de moments de respiration possibles?
Un petit peu plus. Je pense qu'on se fait un petit peu plus confiance aussi. Mais oui, y a... j'ai l'impression d'arriver à la moitié ou aux trois quarts du tunnel, on va dire, où je me dis que oui, ça y est, là, on va en sortir, ça va bien se passer. Gaspard, il grandit. Il va aussi être un peu plus autonome. Et je pense aussi qu'il va... Alors, il y a peut-être le fait que je change de travail, où là, on repart un peu de zéro, je pense aussi. Le fait aussi où je me dis qu'il faut qu'on se fasse confiance, quoi. J'ai toujours suivi mes instincts depuis le début et ils se sont rarement trompés. Et que là, il faut qu'on continue et que j'en suis capable et que je vais y arriver et que Thibaut va y arriver aussi.
T'arrêtes le libéral justement pour ces raisons-là, pour être pour un plus de dispo, je sais pas pourquoi.
Alors, le libéral, je l'arrête parce que déjà, d'une part, c'est compliqué de travailler là où tu habites. Bah forcément, hein, tout le monde est au courant de notre histoire, mais tout le monde a été très aimable. Bon, après, j'ai eu des patients. Ah, il va mourir!
Non,
Bah oui, mais comme tout
comme tout le
le monde. Donc, voilà. Après, voilà, on a eu des
monde.
choses, mais bon, là, c'est pareil, il faut apprendre à en laisser et à trier. J'arrête aussi parce que je me rends compte que les annonces de diagnostic et les annonces de maladie sont compliquées. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à les gérer. Je suis un peu trop devenue empathique. Il le faut pour être infirmière, mais là,
Bah,
j'ai
ça te
atteint une
touche trop.
limite. Ouais.
Puis comment tu fais pour prendre soin des gens quand toi tu vas pas bien?
Et ben en fait, je donne tout aux autres alors qu'il faudrait que j'en laisse un petit peu pour moi. Et sauf que je donne toute mon énergie dans le libéral alors qu'il va falloir... là, clairement, je mets ma santé en danger. Donc,
Donc stop.
stop. Voilà.
Du coup, ça va consister en quoi ton nouveau métier?
Là, du coup, je vais faire de la coordination un petit peu. Donc, je reste toujours dans le besoin des gens, dans la demande des personnes en difficulté, donc que ce soit précarité, vieillesse, tout type de patients. Par contre, je ne suis plus dans le soin et je fais de la coordination entre tous les professionnels, avec des horaires fixes, plus de week-end et puis un cadre de travail où je ne suis plus à mon compte et j'ai plus de compta à faire.
Ouais, et puis ben, du coup, à la fin du mois, tu sais que c'est toujours la même chose et t'es plus la seule responsable de ça.
C'est ça, exactement. Et puis un rythme fixe pour Gaspard aussi, où je pars plus à... Il y a des matins où je pars à 6 heures. Respect à toutes les personnes qui le
Bien
font,
sûr.
mais là, moi, j'ai besoin d'une transition. Je ne dis pas que dans 2 ans, je vais
Oui,
pas
peut-être, mais
retourner.
puis là, c'est ton temps aussi pour toi, peut-être un peu plus d'espace justement
C'est ça.
pour guérir.
Voilà, exactement.
Voilà. Et puis tout à l'heure, tu me disais la moitié ou un tiers du tunnel, mais je ne sais pas si on t'a parlé de la durée du postpartum.
Si.
Mais... ben, c'est ça, en fait.
Ouais.
C'est ça. Et c'est normal que ce soit encore difficile. C'est normal que le bout du tunnel ne soit pas encore là, mais il va l'être. Et tu as raison, Gaspard, il va grandir et il va bien grandir parce qu'il est très, très bien entouré, ce petit garçon. Et vous allez faire... Enfin, vous faites déjà tout ce qu'il faut et en prenant soin de vous, vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison, en fait. Il n'y a vraiment pas de raison.
On essaye de se faire confiance et on essaye de se dire que oui. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix.
Non, donc, c'est vrai. Pourquoi tu as voulu témoigner sur Prenons un café ?
Eh bien, tu vois, j'en parlais ce midi, où je mangeais avec des amis. Et alors... loin d'être une thérapie, parce que...
I am not there for that.
Non, voilà. Là, un podcast, ce n'est pas une thérapie. Non. Par contre, c'est de libérer la parole, en fait. Ouais. Sur, ça me gênait, parce que j'ai toujours la peur de faire peur en racontant notre histoire. Mais en même temps, elle est là, c'est ouais. La réalité. Ça arrive, ça nous est arrivé, ça peut arriver. Et je me dis que bah, si un jour des femmes m'écoutent... et ont besoin, bah, pourront me contacter. Et moi, avec plaisir, si je peux aider, écouter et retémoigner s'il faut. Et puis, besoin de faire parler notre histoire et de faire parler Gaspard.
Ouais, parce que tout ça, c'est pas vain, tu vois. Y a pas
non.
De,
ouais. Et puis, dans quelques années, de me dire que si Gaspard, il veut écouter sa maman parler, ben... il pourra m'écouter et je lui expliquerai tout ce qui s'est passé. Mmh. Et on commence à lui parler aussi de la maladie. On commence à lui parler de tout ce qui s'est passé et de tout ce qu'il a vécu, Gaspard, parce qu'en
c'est beaucoup pour lui
en
aussi.
17 mois, il en a vécu. Donc, et j'ai besoin de parler de la muco.
Ouais.
Gaspard n'est pas que la muco. Ça, faut vraiment que je fasse attention à ça parce que je mets vite la muco sur Gaspard.
Ouais.
Gaspard, c'est pas que un enfant muco avec une main en moins, c'est Gaspard. Et je veux pas rattraper le temps perdu, pas du tout. Je veux essayer de faire au mieux pour qu'il ait une vie optimale.
Carrément. Puis t'as raison, c'est pas. Enfin, il n'est pas défini par sa mucoviscidose, il n'est pas défini par tout ça. Ça fait partie de lui, ça a un gros impact sur sa vie, ça a un gros impact sur la vôtre, mais il n'est pas que ça. Et ça, c'est valable pour à peu près toutes les pathologies. On n'est pas ce qu'on est, enfin, on n'est pas défini par nos troubles, par nos maladies, par tout ça, parce que c'est pas... Je sais qu'on a tendance à voir que ça après, tu vois, quand cette espèce d'étiquette qui est mise, alors qu'en fait, c'est une partie, c'est un bout, c'est un tout, en fait, finalement. Et oui, c'est assez important. Et puis, tu sais, moi, je reviens sur ce que tu dis. Tu avais peur de faire peur. Moi, je ne mets pas mes épisodes comme ça. Tu vois, j'explique de quoi on va parler en amont. Et les gens qui écouteront ton histoire, ils auront vraiment envie d'écouter. Ils seront en connaissance de cause.
Oui.
Tu vois, on parlait de suspense un petit peu comme ça. En vrai, il n'y en a pas de suspense. Hein, parce que je ne suis pas cruelle. Et que non, c'est important de dire à l'avance de quoi on va parler. Parce que ben, peut-être que ça peut justement effrayer des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas capables à un moment d'écouter. Mais peut-être que plus tard, oui. Pour plein de raisons. Et tu sais, surprenant un café, si... on parle autant des histoires qui sont loin de vécu heureux et beaucoup d'enfants, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a besoin de les écouter, ces histoires-là. Parce que toi, à un moment, quand on t'a fait le diagnostic, quand tu as entendu le mot mucoviscidose, la première chose que tu as faite, c'est chercher des ressources et chercher des gens. Et ben aujourd'hui, enfin aujourd'hui, pas aujourd'hui, parce que c'est pas le jour de sensibilité, mais en tout cas aujourd'hui, tu seras une de ces ressources-là aussi. Ce que tu n'as pas trouvé, en fait, tu pourras le donner. Et ça, c'est très courageux de le faire. Et c'est hyper altruiste de le faire. Parce que tu racontes ton histoire, certes, mais en même temps, ton histoire, elle va sûrement résonner dans les oreilles d'autres personnes qui ont envie d'entendre et qui ont besoin d'entendre ce que tu viens de dire, tout ce que tu viens de déposer. Que ce soit autour de la mucoviscidose ou d'une autre maladie. Parce que les épreuves de la PMA, il n'y a pas besoin d'avoir un diagnostic de maladie derrière pour comprendre et pour avoir envie d'entendre quelqu'un, d'avoir besoin d'entendre quelqu'un qu'il a vécu. Les moments de diagnostic, c'est la même chose, en fait. C'est pas... Enfin, tu vas aider des gens. Et ce que tu as vécu là, le transmettre va permettre justement d'accompagner d'autres personnes et de pouvoir se serrer les coudes aussi dans des moments qui sont compliqués. Et au-delà des gens qui le vivent, la maladie, ces podcasts-là sont aussi pour les gens qui accompagnent qui sont autour. Parce que c'est difficile de comprendre vraiment ce que notre entourage peut vivre quand ils vivent une épreuve comme ça, parce qu'on n'ose pas toujours poser les questions, parce que les personnes qui vivent des choses difficiles n'ont pas toujours les bons mots, parce que c'est difficile d'aller avoir, d'avoir le recul nécessaire et de dire ce dont on a besoin. Avec ton discours, avec ton histoire, en fait, ça va pouvoir aiguiller un petit peu plus les personnes qui font partie de ces entourages-là. C'est pour ça aussi qu'on le fait. C'est pas juste pour les personnes concernées. C'est pour que justement tout le monde soit concerné à un moment. Ça veut pas dire on souhaite à tout le monde de vivre ça. Ça veut dire en fait, on est tous toujours plus ou moins concernés par un proche qui vit un truc horrible ou un truc terrible, et on ne sait jamais quoi faire. En fait, quoi faire, c'est quoi? C'est aller faire un sapin de Noël quand les copains sont à l'hôpital. C'est être là, c'est envoyer un petit message pour demander comment ça va. C'est aller au resto avec la personne. C'est continuer à être là, continuer à être présent et pas disparaître du jour au lendemain parce que sous prétexte que quelqu'un vit quelque chose de difficile. Et ça, tu l'as transmis aussi dans ton discours et je pense que c'est très important.
Je rebondis juste sur, parce qu'il y a quand même plein de thématiques dans mon témoignage, sur la dépression postpartum qui peut paraître, la dépression tout court de toute façon, tellement compliquée à comprendre. Il faut aussi entendre que pour les personnes autour, c'est difficile pour eux de comprendre une dépression, mais pour la personne concernée, c'est encore plus difficile de la comprendre et de mettre des mots sur la dépression et de mettre... des mots sur ce dont on a besoin et des fois on va avoir besoin de rien, on va pas vouloir parler et le lendemain on va avoir envie de voir du monde. C'est difficile pour l'entourage, je l'entends, mais il faut continuer, il faut rester là, il faut rester à côté.
La question qui marche à tous les coups, c'est pas « je vais faire ça pour toi », c'est « de quoi as-tu besoin ?»
As-tu besoin ?
C'est de quoi as-tu besoin, c'est vrai. Et avec tout l'altruisme que cette question a, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on imagine que nous on aurait besoin dans cette situation-là, c'est vraiment de quoi tu as besoin. Oui. Quand on accompagne, quand on est le proche de quelqu'un qui est en dépression, en burn-out, ce genre de choses, si la personne dit j'ai besoin de rester toute seule sur mon canapé, et c'est de faire en sorte que la personne reste toute seule sur son canapé. Ça va être, je sais pas, d'emblée... les enfants au parc ou de, enfin voilà, ce genre de choses, ça va être ça. Et si la personne dit j'ai envie d'aller au resto, on va faire en sorte que tu ailles au resto. C'est ça en fait la vraie chose. Et si c'est j'ai envie d'être tout seul, c'est pas un rejet, hein. C'est juste que pour l'instant à ce moment-là t'as pas l'énergie de toute façon de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Et c'est comme ça. On ne dirait pas à quelqu'un qui s'est cassé une jambe d'aller courir un marathon. Donc si t'as pas envie de sortir, t'as pas envie de sortir. Et si t'as envie de sortir, t'as envie de sortir. Et en fait, c'est exactement les mêmes parallèles. C'est difficile parce que les maladies mentales, parce que c'est ça, hein, les maladies mentales, elles sont invisibles, qu'elles sont dans la tête et que là, beaucoup de gens ont tendance à penser que c'est juste une question de volonté. Sauf que c'est tout sauf une question de volonté. C'est tout sauf ça. Et que si on avait faim, si c'était ça, il n'y aurait pas de personnes qui seraient atteintes de maladies mentales, il n'y aurait pas de dépression, il n'y aurait pas de burn-out, parce que personne ne veut vivre ça. Personne.
Ça, vraiment, ça a été difficile dans la partie dépression. Ça a été vraiment quelque chose de difficile, c'est ça. C'est pas de justifier de pourquoi tu es malade. Moi, ça m'a tué de devoir essayer de me faire comprendre, en fait. Et t'as l'impression de pas être légitime parce que mon fils, il est là et on a tout fait pour le sauver. Oui, je me suis battue. Oui, on a tout fait. Oui, tout ça, je l'entends. Mais ça n'empêche que je suis tombée, en fait. Et là, ce qu'il faut, c'est me relever, en fait. Ça, vraiment, ça a été difficile.
Parce que oui, ton fils, il est là. Mais les années de PMA, ils sont là aussi. Ouais. Les pertes, les échecs, parce que ça, à chaque fois, c'est une perte, c'est un deuil. Ils sont là aussi. Les annonces de diagnostic, que ce soit pour la main, que ce soit pour la mucoviscidose, ils sont là. Et en fait, ils existent. Et c'est pas parce qu'à la fin, t'as un happy end, c'est-à-dire que t'as ton enfant qui va bien, qui grandit, qui au mieux de ce qu'il peut être, en tout cas. C'est pas parce qu'il y a ça que ça efface tout ce qu'il y a derrière, en fait.
Non.
C'est pas possible, en fait. C'est pas parce que tu reviens en pleine forme et en pleine santé de la guerre qu'elle a pas existé.
Voilà.
Que t'as pas vu tes amis tomber, que t'as pas vu tout ça. Et c'est exactement la même chose. Hein.
Exactement, c'est exactement ça. Après, l'idée, c'est pas de toujours le ressasser,
non.
Ça je l'entends, c'est d'avancer, mais c'est que y a des choses qu'on n'oublie pas et il y a des moments qu'on n'oubliera jamais dans notre vie Il y a des moments qui sont graves.
Ouais, et qui nécessitent du soin, encore une fois, et du temps.
Oui.
Et ça ira, ça ira mieux. Ça ne peut qu'aller mieux. Ça ira mieux.
J'en doute pas.
Mais ça demande du temps, ça demande de l'attention et de la patience. Mmh. Parce qu'en effet, si vous êtes un proche de quelqu'un qui vit une dépression, sachez que c'est peut-être difficile pour vous, mais ça l'est encore plus pour la personne qui le vit. Et ça, c'est à bien garder en tête.
Oui, ne surtout pas l'oublier.
Merci beaucoup, Cindy.
Merci à toi, Élise.
Merci mille fois. J'ai beaucoup aimé notre échange. C'était intense. J'ai failli pleurer plein de fois.
Désolée.
C'est pas grave.
J'ai pleuré.
Non, en tout cas, c'est très chouette. Est-ce que si des personnes, justement, qui entendent ton histoire ont envie de te contacter, est-ce qu'ils peuvent le faire?
Oui,
avec plaisir. Et comment on le fait?
Sur Instagram.
Ouais.
Je ne suis pas une personnalité publique du
mais
tout.
Mais on s'en fiche, c'est pas le sujet, c'est un peu importe.
C'est mon Instagram, c'est Kindy, c'est mon surnom, Kindy, avec un K,
ouais.
0608. Okay. Et sinon, sur Facebook, c'est Kindy Pambou. Okay. Y a aucun
je mettrai
problème
les liens en description de l'épisode. Je te taguerai aussi sur le post d'Instagram à la sortie, comme ça, les personnes qui veulent justement échanger avec toi, t'envoyer toute la force possible et tout l'amour possible, parce que ça, c'est hyper important aussi, pour le faire. Moi, je te remercie vraiment beaucoup, Cindy. Je vous souhaite le meilleur, vraiment, que le
merci,
meilleur.
Merci.
Et ça va le faire, ça va prendre du temps, mais ça va le faire.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Cet épisode t'a plu ? Parle-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant @Élise-du-bas Prenons un café. Ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcasts et même sur Spotify. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli préférée, tu cliques sur les étoiles et tu mets un petit mot sympa dans la section avis. Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait « Tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis maman. Ça devrait être pris en charge par la Sécu tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. » Merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie, Mathilde, pour le temps passé à écrire ce message et les mots choisis, car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.